Donc on va commencer Bezrat Hashem notre deuxième shiur sur le sixième chapitre de Guéret Hatshuva. Donc c'est quelle page, monsieur Sportich? Page 190. Bon. Donc quel est le sujet qu'on a commencé la semaine dernière? En vérité, on est revenu à une question qu'on avait posée au début du quatrième chapitre. Une fois qu'on a bien compris le concept de la Teshuvah, que la Teshuvah, ça veut dire décider de ne plus recommencer à fauter, sans l'expliquer longuement, on a expliqué que dans les faits, on voit que les gens prennent des décisions, mais que les décisions ne s'accomplissent pas. Ça ne s'accomplit pas. Donc on a expliqué que si on n'arrive pas à mettre la décision en pratique, ça veut dire qu'il y a un blocage. Monsieur David. Donc s'il y a un blocage, donc à nous de comprendre où il y a le blocage. Donc pour comprendre où il y a le blocage, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avera, qu'est-ce que c'est un juif, d'accord? Qu'est-ce qu'un juif fait quand il fait une mitzvah et qu'est-ce qu'un juif fait quand il fait une avera? Et une fois qu'on a compris tous les rouages, c'est là qu'on va comprendre les blocages. C'est là qu'on comprendra beaucoup mieux en quoi une mitzvah c'est très important et en quoi une avera c'est très grave. Et là, avec ça, ça nous aidera à faire une meilleure teshuva. Une teshuva qui n'a rien à voir. Parce qu'on a compréhension de ce qui se passe. Donc, on a commencé le quatrième chapitre. Je ne vais pas revenir à ce qu'on a expliqué dans le premier chapitre. De toute façon, Bezrat Hashem, à la fin du, quand on aura fini Guéret Teshuva, on fera un long résumé, comme d'habitude, sur tout le Guéret Teshuva. Donc, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Là, on va s'arrêter sur une question. Je pense une question fondamentale qu'on a posée au début du quatrième chapitre. Une question très importante. On a dit, dans la Torah, on nous dit qu'une personne, et donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que cette question va nous permettre de comprendre l'impact et l'importance du mitzvah et du navera. C'est pour ça que c'est une question très importante, une question capitale. Parce que si on ne comprend pas la réponse à cette question, on ne peut pas comprendre l'enjeu d'une mitzvah, d'accord, et l'impact du navera. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi il faut faire teshuva. Il faut bien comprendre la question et la réponse que je vais poser. La réponse est la question que je vais poser. C'est quoi la question? La question qu'on a posée, on a dit, la Torah elle nous dit qu'une personne qui fait certains averot, il chayav karet. Chayav karet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit mourir. La Torah nous dit, c'est pas que peut-être ou peut-être il n'est pas gentil, etc. On dit, non, il va mourir à 50 ou 60 ans. C'est la Torah qui te le dit.
Dieu préserve.
D'accord? Dieu préserve.
Bon.
C'est écrit.
L'Ouali.
D'accord? Donc, posez la question, on a dit, pourtant on voit, dans toutes les générations, c'est Admorazagan qui dit, c'est quelque chose qui est évident. Statistiquement, c'est évident qu'on voit qu'il y a des gens qui savent très bien que c'est interdit, qui font quand même, et qui font des averot sur lesquels on devrait être hayav karet, et qui ne meurent pas. Donc, d'accord, ils ne meurent pas. Non, ils ne meurent pas, mais ils vivent longtemps. Et pas seulement ça, comme il a dit. Ils vivent même mieux que ceux qui ne font pas d'averot. Donc il y a un problème dans le système. Donc quand même, pourquoi c'est très important de comprendre la réponse à cette question? Parce que pour être capable de faire teshuva, c'est quoi faire teshuva? Comment je fais teshuva? Je fais teshuva quand je réalise la gravité de ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'on a du mal à réaliser la gravité de ce qu'on fait, parce que j'ai finalement, regarde, lui, il a fait la vera, il a rien eu. Alors moi aussi, j'ai qu'à faire la vera, qu'est-ce qui a changé? Donc c'est pas grave. Donc si c'est pas grave, donc je fais pas teshuva. Et bon, je vais le faire pour la forme, le jour de Yom Kippour, ou un peu avant le mois d'Eloul. Mais finalement, ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérange? Parce que je comprends pas. Je comprends pas l'impact de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est pas, c'est pas seulement une question de curiosité pour embêter, pour dire oui, on a des questions sur Dieu. Non, c'est une question de base qui va nous permettre de faire teshuva. Ça, c'est la question qu'on a posée dans le Perek d'Alem, en chapitre 4. Bon, après, dans chapitre 5, etc., au début du chapitre 6, on a développé beaucoup de choses. On a développé le concept comment un juif, et comment le juif, par définition, il est conçu différemment. Vous vous rappelez que le juif, il a été insufflé, alors que tout le reste du monde, c'est pas insufflé. On a dit au contraire, c'est par la parole, donc c'est moins profond. D'accord? Mais je reviens au sujet qu'on a parlé la semaine dernière, qu'on a commencé au chapitre 4. La question qui était, comment ça se fait que ce que la Torah nous dit, a priori, ne s'accomplit pas? On voit le contraire. La Torah te dit, tu fais les mitzvot, je donnerai la récolte en ton champ. La Torah te dit, celui qui fait tel avéra, il mourra avant 50 ou 60 ans. Dans les faits, on voit le contraire. C'est le contraire qui se passe. Donc il y a un problème. D'accord? Oui, alors justement, ça c'est la question qu'on a posée. Il y a un problème dans le système.
Je sais pas.
Alors, après, si on s'amuse à dire, oui, mais bon, on comprend pas le chemin de Dieu, alors dans ce cas, si tu t'amuses à dire ça, dans ce cas-là, tu vas dire que tu comprends pas les mitzvot et la averot aussi. Parce que c'est du pshat, les mitzvot et la averot. Et tu dis clairement, tu dis, celui qui va m'écouter, je donnerai la récolte dans ton champ. Alors pourquoi ceux qui font les mitzvot, ils ont pas la récolte dans leur champ, et les autres, ils ont? Et ils ont beaucoup de récolte dans leur champ. Il y a un problème. Il nous manque une case, là. Il y a un problème. On est d'accord avec la question? Encore une fois, je répète, c'est un pshat que le rabbi explique, qui dit que c'est pas une simple question de curiosité. C'est une question qui est très importante. Parce que si on comprend pas l'impact du mitzvah et l'impact du navera, on peut pas faire teshuva. On peut pas faire teshuva parce que finalement on n'en a rien à faire. On se dit bon, c'est dans le ciel, le truc qui se passe en haut, on va savoir ce qui se passe. Ça ne me dérange pas. D'accord? Dieu, il dit, fais une mitzvah, il va se passer quelque chose de bien. Fais une avéra, il va se passer quelque chose de mal. Je vois le contraire. Donc il y a un problème. Alors quelle est la réponse qu'on a dit? Vas-y, que tu as dit Zerar. C'est quoi la réponse qu'on a commencé à expliquer la semaine dernière?
C'était pas la même époque.
Voilà. On a expliqué que tout ça, qu'en vérité, quand la Torah nous dit qu'une personne, par exemple, qui fait certaines avérotes, va mourir avant 60 ans, une personne qui est chômeur Torah en mitzvot, il va avoir la récolte en son champ, et une personne qui n'est pas chômeur Torah en mitzvot n'aura pas la récolte en son champ. Ça, c'était valable uniquement à l'époque du Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'à l'époque du Bet Amikdash, l'impact d'une mitzvah, d'accord, et d'une avéra était visible. On le voyait, les gens le voyaient. D'accord, la semaine dernière, on a expliqué ça avec une image, d'accord, on a expliqué que, en fait, le Mourazakan a expliqué que, par nos mitzvot et nos avérotes, on faisait descendre l'inspiration d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu fais la mitzvah, tu fais descendre. Si tu fais pas la mitzvah, tu fais pas descendre. Voilà ce qu'on avait expliqué. Ça veut dire que la marge qui va décider est-ce que je reçois ou est-ce que je ne reçois pas, c'est moi avec mes actions. Ce qui a changé, quand on est en galoute, c'est que quand on est en galoute, Akadosh Baruch Hu dit, dorénavant, une partie de la galoute, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous montre plus l'impact de nos mitzvot et de nos avérotes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien avec nos mitzvot et nos avérotes. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'impact est beaucoup plus lointain. Et c'est possible qu'une personne, de son vivant, ne verra pas l'impact de ses mitzvot et de avérot. Il verra pas. Encore une fois, il verra peut-être spirituellement qu'il va sentir des fois qu'il a un peu de mal à faire la tefillah, des choses comme ça. Et encore, il va savoir si c'est pas psychologique. Parce que c'est très possible que c'est psychologique. Très possible. Parce que si une personne se convainc que non, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Ça fait partie de la galoute. Pourquoi la galoute est très difficile? Parce que dans la galoute, Akadosh Baruch Hu a tellement caché les choses, se cache tellement, il se voile tellement, que du coup, on ne voit plus l'impact d'une mitzvah et l'impact d'une avéra. Ça, c'est le plus dur. Ça, ce qu'il a expliqué. Alors, on avait donné un exemple la semaine dernière, on avait dit, imaginez-vous par exemple qu'Akadosh Baruch Hu fait descendre l'énergie jusqu'au niveau 50, et nous, on doit le faire descendre jusqu'au niveau 100. Donc, à l'époque du Bet Hamikdash, si tu fais une mitzvah, tu vas chercher l'énergie du 50, tu la descends au 100. Tu fais une avéra, au contraire, tu coupes avec l'énergie. Donc, tu n'as pas d'énergie. On voyait clairement dans la vie de tous les jours qu'une personne qui faisait des avérotes avait des problèmes dans leur vie. C'était comme si c'était visible. D'ailleurs, on a des histoires, plein d'histoires comme ça dans le Nar. Claire. D'accord? Dès qu'il y a eu la destruction du Bet Hamikdash, dorénavant, Kadosh Baruch Hu dit dorénavant, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça descende de 50 à 100. C'est moi qui fais descendre de 50 à 100. Donc, vous êtes comme les goyim. Vous recevez comme tout le monde. Je vous donne. Alors à quoi servent vos mitzvot et vos avérot? Ils vont servir. Mais c'est autre chose. Quand on explique cela, par exemple, une mitzvah, une avéra, on peut dire par exemple que lorsqu'on fait une mitzvah, on va être gentil avec le patron. Donc le patron va dire, bon, dans ce cas-là, je vais lui donner plus. Mais c'est pas comme avant. Avant, la mitzvah et la avéra, c'était, est-ce que je suis venu au self-service pour me servir, oui ou non? Ça, c'était comme ça, les mitzvot et l'avérot avant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, de toutes les façons, Dieu y donne. Quel est l'impact d'une mitzvah et d'une avéra? C'est est-ce que j'ai été gentil avec le serveur? Est-ce que j'ai été gentil avec le patron? C'est beaucoup plus lointain.
Peut-être parce que c'est plus la mitzvah.
D'accord.
Peut-être parce qu'il n'y a plus de mitzvah.
Si, il y a des mitzvahs. Qu'on a expliqué. Non, il y a des mitzvahs. Bien sûr qu'il y a des mitzvahs minatora. Enfin, il y a une grande majorité des mitzvahs qu'on fait aujourd'hui, c'est minatora. D'accord, comme les tefillin, les juzas, etc., Shabbat, c'est minatora. Mais.
Je veux dire qu'il y a d'accord. Des questions, aujourd'hui, c'est pas le chinour.
C'est minatora. Non.
C'est aujourd'hui. Pas le chinour.
Non. C'est les mitzvahs qui minatora. Ça, c'est justement le sefer à chinour. Il ramène toutes les mitzvot, et dans chaque mitzvah, il dit quelle mitzvah dépend du temps, quelle mitzvah ne dépend pas du Bet Hamikdash, etc. La majorité des mitzvot qu'on fait aujourd'hui, même la tefila, c'est minatora. Toute la majorité des mitzvot qu'on fait aujourd'hui, c'est minatora. Seulement, qu'est-ce qu'on a expliqué? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on ne voit pas l'impact direct de nos mitzvot et de nos avérot. On ne voit plus l'impact direct. Akadosh Baruch Hu a caché. D'accord? Et donc, du coup, puisqu'Akadosh Baruch Hu a caché, a voilé, donc du coup, comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on peut avoir une personne qui est rachat, qui continue à vivre. Pourquoi il continue à vivre? Parce qu'encore une fois, à l'époque du Bet Hamikdash, celui qui faisait une avéra, il coupait le fil. Donc, puisqu'il coupait le fil, l'énergie ne peut plus descendre du niveau 50 au niveau 100. Donc, il va avoir un peu d'énergie qu'il a emmagasinée, qui va lui permettre de tirer jusqu'à 50 ou 100 ans, peut-être même moins. Mais après, il peut plus, parce qu'il a coupé. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, de toutes les façons, et c'est pour notre bien. Akadosh Baruch Hu, il donne de toutes les façons. Mais l'impact du musée d'une avéra sera beaucoup plus lointain. Et c'est un impact peut-être sur le Gan Eden, peut-être sur récupérer des étincelles, peut-être sur nous aider spirituellement, mais c'est beaucoup plus lointain, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Bien sûr, les autres d'avance, à l'époque, on voyait un impact direct sur le salaire. Le salaire d'en bas. C'est le schéma.
Premièrement, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, ils faisaient ça par intérêt, quand même. C'est pas évident, je veux dire.
C'est pas par intérêt, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour eux. Bien sûr, c'est plus facile.
Oui, mais si tu fais une mitzvah avec un
comme j'expliquais la semaine dernière, il y a une notion de que des fois, quand on veut faire une avéra, par exemple, Dieu préserve un homme, son yetzer hara, on va prendre un exemple un peu cru. Le yetzer hara, il va parler à une personne, il va lui dire, la trompe est ta femme. Chas v'shalom. D'accord? La personne, un goy, disons que c'est un goy, il sait très bien que c'est pas bien, il sait très bien qu'il y aura des retombées. Il risque de le faire quand même. Pourquoi il risque de le faire? Parce que même s'il réalise les retombées, mais sa volonté, son envie est plus forte. Donc c'est la même chose à l'époque du Beth Amikdash. On voyait clairement les retombées, on savait très bien les retombées que ça allait avoir. Mais des fois l'envie était très forte, donc du coup les gens y plongeaient. Le Tzahara est toujours là. Tu comprends? C'est pas parce que je vois l'impact de mes avérotes que je ne fais pas d'avéra. Mais c'est vrai que c'est plus dur à faire une avéra. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, parce qu'aujourd'hui une personne fait une avéra, il voit pas l'impact que ça a sur sa vie. Il n'y a pas d'impact. Personne fait une avéra, il voit pas comment sa journée a changé. Il peut pas dire aujourd'hui j'ai fait une avéra, ma journée était comme ça, hier j'ai pas fait d'avéra, ma journée était autrement. Et pas.
Si, quand même.
D'accord.
C'est quand même lui et sa conscience après. Hein.
On a expliqué que, encore une fois, j'ai pas dit que.
J'ai pas dit
qu'il y a jamais. C'est possible qu'il y aura. D'accord. Mais c'est possible qu'il n'y aura pas. Il n'y a pas de lien direct. Quoi?
Essaye.
Il n'y a pas de lien direct. D'accord. Il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct.
Bah, la piquine, tu vas voir.
D'accord. Bon. Donc, ça, c'est ce qu'on expliquait la semaine dernière.
Il n'y a jamais de dommages, il n'y a que des fautes.
D'accord.
Il n'y a jamais de dommages, il n'y a que des fautes. C'est-à-dire que rien ne peut nous atteindre si on n'a pas fait la faute initialement. Je sais pas quel est le terme exact.
Tu es d'accord avec ce que tu dis?
Pourquoi je suis pas d'accord?
Non, parce que regarde, ça ne se passe pas comme ça.
Si quelque chose t'arrive, c'est obligatoirement que tu as fait un petit truc.
Les gens qui se prennent sur la tête, c'est les gens qui fautent pour toi?
Peut-être.
Mais il y en a, non?
Ouais, non. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui se prend une claque sur la tête, tu dis, ah oui, c'est parce qu'il a fauté?
On sait les comptes, nous.
Mais attends.
Moi, je me dis.
Non, c'est les comptes, là, dans ce cas-là.
Moi, personnellement, à chaque fois que j'arrive quelque chose, c'est parce que j'ai fait quelque chose.
T'es sûr?
Moi, c'est ce que je me dis, personnellement.
T'es sûr, c'est parce que t'as fait une avéra?
Mais j'ai vu, pardon?
Mais des fois, ça t'arrive pas que tu fais une avéra et il se passe rien du tout?
Peut-être pas maintenant.
Ah, pourquoi il se passe rien?
Non, mais tu fais.
Et si t'as fait une grande mitzvah, pourquoi t'as pas le salaire aussi, une partie?
Que Dieu préserve pas toi, mais quelqu'un d'autre.
Et quand tu fais une mitzvah, tu vois l'impact de ta journée?
Et c'est pas du tout.
Si t'arrives rien.
Encore une fois, comme je disais la semaine dernière, je veux pas refroidir votre mouna, je suis pas là pour refroidir votre mouna, de shalom. D'accord, mais je pense que c'est important de comprendre ça, parce que sinon après le tzara nous attaque très facilement. C'est important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'impact, nos mitzvot et nos avérot n'ont pas forcément d'impact sur notre journée.
Pas forcément. Ni sur notre vie.
Je donne un exemple,
pour reprendre l'exemple tout à l'heure. Tu peux avoir une personne qui est sincère avec sa femme et qui lui raconte tout et qui n'arrête pas de s'accrocher avec elle parce qu'il lui raconte tout. Et tu peux avoir un autre, pour reprendre cet exemple-là, qui trompe sa femme et qui lui dit rien et qui s'entend très bien avec sa femme.
Tout à fait.
Alors il y a un problème.
Non mais c'est le salaire de la mitzvah.
Il y a un problème dans le système.
Quand on dit le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, le salaire de la vera, c'est ça.
Oui, parce que celui qui trompe.
Parce que finalement, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire finalement pourquoi? C'est-à-dire que le salaire de la mitzvah.
Je reconnais comme ça.
De faire une mitzvah, ça t'entraîne à continuer à faire de bonnes actions. C'est ça.
Pourquoi jamais
J'amène cet exemple
parce que la relation qu'il y a entre un juif et la relation qu'il y a entre les juifs et Akadosh Baruch Hu, c'est comme un mari et une femme.
C'est ça.
D'accord, c'est comme un mari et une femme. C'est la relation. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Par exemple, quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, le Midrash il dit c'est comme une femme qui a trompé son mari. C'est pour ça que je donne cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est concret. 40 jours après. Alors. Donc je reviens à notre sujet.
Ah, c'est arrivé le jour de scénario aussi.
Il a expliqué la Noura d'Agadi.
Oui.
Il a expliqué que même si on fait des fautes, le peu de mitzvah qu'on a fait, on est encore en vie justement pour...
Alors ça...
Des peu de mitzvah qu'on a fait, on les touche ici.
Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash.
Et donc, arrivé là-haut, ils n'auront plus rien.
D'accord. Ça, on va en parler après. On n'a pas encore parlé de
ça.
Oui, mais c'est dans le Perexis.
Oui, on n'a pas fini le Perexis encore.
Oui.
D'accord. Donc ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Mais une fois que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus la mitzvah et la vera n'aura pas forcément un impact sur notre vie. Ça, c'est un premier point qu'on a expliqué à cette dernière longuement. Encore une fois, c'est un point, on a expliqué. Avant, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est nous qui devons aller chercher l'énergie. Donc si tu ne vas pas aller chercher, elle ne descend pas. Une fois que le Beit HaMikdash était détruit, l'énergie descend de toutes les façons. Donc, entre guillemets, un juif va s'alimenter de la même manière qu'un goy. Deux secondes. Donc, il n'y a plus de différence. Alors, quelle est la marge d'une mitzvah d'une avéra? Quelle est la marge d'une mitzvah d'une avéra? La marge d'une mitzvah d'une avéra va être sur des choses qui vont être beaucoup plus lointaines. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Alors, deux secondes, Guy. Okay. Alors, maintenant, on est resté sur une question la semaine dernière. Après, je pose la question. On est resté sur une question. On a dit, bon, là, jusqu'à présent, on vient d'expliquer qu'apparemment, une mitzvah d'une avéra n'a pas forcément d'incidence sur notre vie. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Pas forcément. Possible que oui, possible que non. Là, Admon Razaken m'a posé une question. Il dit, attends. Il dit, bon, tu m'as répondu à ma question qu'une mitzvah et une avéra n'a pas forcément d'impact positif ou négatif sur ma vie. D'accord. Moi, je vais te poser une question. C'est que non seulement... On va prendre une avéra, par exemple. Toi, tu me dis qu'une avéra n'a pas forcément d'incident négatif sur ma vie. En tout cas, sur l'aspect matériel de ma vie. Sur ma parnassa, par exemple. Bon. Moi, je te pose une question. Parce que moi, je vois le contraire. Je vois que non seulement qu'une avéra n'a pas d'impact négatif sur ma vie, mais des fois, on voit qu'une avéra a carrément un impact positif sur notre vie. Une personne fait des avérotes, il se retrouve à gagner plus d'argent.
On a dit, le peu de mitzvot.
Ça, c'est un problème.
Le peu de mitzvot,
oui, c'est pour ça que j'ai dit. Justement, c'est un vrai problème. Parce que, ce qu'on a expliqué au début de la semaine dernière, on a expliqué que finalement, le mitzvot et nos avérotes sont détachés de la réalité. Ça, j'accepte. Bon, ils sont détachés de la réalité, ça peu importe que c'était l'avérote, de toute façon, il va rien se passer, enfin, c'est pas obligé qu'il y aura un impact direct, concret et réel sur notre réalité. Ça, c'est une chose. Mon Razaken me dit, mais attends, il dit, je comprends pas. Non seulement qu'il n'y a pas un impact négatif, par exemple, suite à une avéra, mais on voit carrément un impact positif. On voit que ces gens, ils se mettent à vivre. Statistiquement,
c'est rien dit que c'est lié.
C'est une bonne question, ce que tu dis, mais statistiquement, il suffit de te regarder autour de soi, hein, c'est pas compliqué. Statistiquement, on voit clairement que les gens qui font d'avéra, ils vivent beaucoup mieux que les gens qui font des mitzvotes. C'est un fait, c'est une réalité. C'est clair.
Ceux qui font des avérotes, ils connaissent pas la loi, donc ils sont pas punis.
Mais attends, ça marche pas, ça.
Tu veux dire quoi?
Alors quoi, ils sont pas punis? Mais ils sont pas punis, mais là ils sont pas punis, ils sont récompensés. Mais si, ils sont récompensés, puisqu'ils ont plus qu'un autre fait une mitzvah.
On sait que Gamzou et Thomas, même si une fois...
Il y a un problème, là. Bah oui, il y a un problème.
C'est pas les plus religieux qui sont le plus dans la facilité.
Mais c'est évident.
Mais c'est Israël ou dans le monde.
Mais dans le monde entier, c'est comme ça. C'est évident, c'est clair, c'est limpide.
Sont
d'ailleurs, je vais vous dire, il y a même dans notre propre vie, on peut voir que dans des moments où on est plus scrupuleux dans nos affaires, plus scrupuleux à essayer de faire encore plus attention, on voit que certainement, messieurs, on voit que dans les cas dans lesquels on est plus scrupuleux dans nos affaires, dans Torah et Mitzvot, on peut voir qu'on va gagner moins d'argent.
Bien sûr qu'on va gagner moins d'argent. La journée où tu gagnes plus, c'est le samedi. Le samedi, on travaille pas.
Ah, mais des fois, t'as le
principe. Et ben, donc là, il y a un problème.
Pour ça, on peut pas savoir en même temps.
Pourquoi tu peux pas savoir? Bah, attends, mais regarde tes collègues.
Je peux y mettre une hypothèse.
Mes collègues. Bah oui. Non, mais attends. Excusez-moi, je vais pas refroidir votre imouna, hein. Mais regarde tes collègues. C'est quelle journée qui bosse le plus? C'est le samedi. C'est clair. C'est clair, c'est limpide.
Restauration cachère, c'est le samedi, ça marche le plus?
Je sais rien.
Restauration cachère, je sais pas.
Tu peux y mettre une hypothèse?
Oui.
Peut-être que la mitzvah et la avéra n'a aucun rapport aujourd'hui avec ce qu'elle avait.
Non, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, un impact. C'est la même chose.
J'insiste.
La valeur du mitzvah aujourd'hui est la même que celle quand il y avait le Beit HaMikdash.
La même chose.
La même.
Même chose, bien sûr. Les mitzvahs qui sont mis en Torah, c'est la même chose, bien sûr. C'est la même chose. Elle a même encore plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit même pas l'impact de ce qu'on fait et on continue à faire quand même. T'imagines le mérite qu'on a? Mais oui, c'est la même valeur. Ouais. Sauf qu'elle n'a plus le même rôle. Avant, le rôle du mitzvah, c'était pour aller se servir. On s'en a expliqué. Maintenant, une mitzvah, c'est autre chose. C'est beaucoup plus abstrait. C'est moins réel. C'est pas direct. Il n'y a pas un impact direct. Encore une fois, comme pour répondre à la question de David, c'est sûr qu'après, on expliquera que lorsqu'une personne fait des avérotes, ça a un impact sur sa vie spirituelle, et qu'après, il a un déblocage dans la tefila, etc., etc. On expliquera tout ça. Mais ça, c'est très abstrait. Ça, c'est pas concret. La Torah n'a pas dit ça. La Torah a dit celui qui fait des mitzvot, je lui donne la récolte en son champ. Celui qui fait des avérot, il n'aura pas de récolte en son champ. Oh, c'est pas ce qu'on voit. Il y a un problème là. Il y a un problème dans le système. On voit le contraire. On voit que les gens qui font des avérot, ils gagnent plus. Enfin, se moquer du monde. C'est quoi cette histoire? Alors, tu viens de m'expliquer que c'est détaché. Je veux bien que ce soit détaché. Mais là, non seulement que c'est pas détaché, mais c'est attaché, mais du mauvais sens.
C'est à l'envers.
Celui qui fait des avérot, il est mieux servi. Il y a un problème.
C'est pas automatique aussi.
Pratiquement.
Bah
Encore une fois, regarde.
Objectif.
Oui, oui. Non, mais là, je suis d'accord que ton exemple statistique, mais c'est pas automatique non plus.
Moi, il y a une personne qui m'a raconté.
Forcément.
Il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a raconté. Il m'a dit. Quelqu'un qui faisait les marchés. Quelqu'un qui faisait les marchés.
Monsieur Kassabi.
Ouais, Monsieur Kassabi, voilà. Ouais. C'est son nom. Il m'a raconté. Il m'a dit.
C'est pas forcément.
Kassabi.
Il m'a dit comme ça. Il m'a raconté. Il m'a dit, quand il était jeune, il faisait pas le Shabbat.
Ah, c'est juste. Tu vois, j'aurais jamais dit.
À cause de toi.
J'aurais jamais
pas dit Kassabi.
Au contraire, c'est beau. Il m'a expliqué que dans les marchés, les deux meilleures journées, c'est le samedi et le dimanche.
Le samedi et le dimanche.
Et le samedi, encore plus que le dimanche, dans certains marchés. Alors, ça dépend des endroits, ça dépend des fréquentations, etc. Il m'a expliqué, il m'a dit que lorsqu'il a commencé à faire Shabbat, c'était horrible. Il a passé, mais il allait fermer, tous les jours il allait fermer. Horrible. Et que bon, il a réussi, Baruch HaShem, à s'en sortir, mais ne cherchez pas, c'est jamais devenu comme avant. Après bon, c'est devenu autrement. Après, ça devient d'autres manières, d'autres affaires, etc. Mais c'est pas comme avant. Ça, c'est l'aïmouna. Ça, c'est de l'aïmouna. C'est-à-dire, on continue à faire, bien qu'on voit pas d'impact direct dans notre vie. Pourtant, c'est écrit le contraire.
Si on voit l'impact.
Non.
Si on voit l'impact, si. On gagne moins.
Ah oui. Alors, là maintenant, donc on est dans le Perek Vav, et justement, on va essayer de répondre à cette question. Je pense que c'est une question fondamentale, parce que oui. Si on comprend pas cette réponse à cette question, on peut pas faire tes choix.
J'espère qu'on aura la réponse avant la fin du cours. Hein.
Alors.
Je viens de faire le coup la semaine prochaine.
Eh bien, quand on dit quand la question est bonne, la réponse a intérêt à être bonne aussi.
Elle a intérêt à venir surtout.
Ne vous inquiétez pas, si je suis sûr de ma question, c'est que je suis sûr de ma réponse.
Dès qu'on pose des questions au début du cours, qu'on n'a pas répondu.
Alors, donc on est. Ve'adraba. Donc je suis vers le milieu de la page Tzadik Vav. Vers un peu avant le milieu, la ligne commence. Chaf Memshin, Kmoshekatou. J'avais le point, juste après le point, Ve'adraba. Donc, Admorazakini dit, Ve'adraba, au contraire. Non seulement tu m'as expliqué jusqu'à maintenant qu'il y a un certain détachement entre les mitzvot et la verot et la réalité et le salaire, pourtant, dit l'Admorazaken, Ve'adraba. Non seulement qu'il n'y a pas un détachement, mais au contraire, il y a un attachement et du côté, a priori, du mauvais côté. Be'yeter se'et, be'yeter oz. On voit clairement qu'une personne qui fait une avéra, certainement qu'elle vivra mieux qu'une personne qui ne fait pas d'avérot. Comme il avait dit dans le Perek Dalet, il avait dit binéimim. Il avait dit que ces gens-là, ils vivent en général binéimim, ça veut dire quoi binéimim? C'est-à-dire qu'ils vivent bien, agréablement. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Dis la demande à Zakan, on va expliquer ça. Alpi amevoa, le Zohar à Kadosh. Selon ce qui est expliqué dans le Zohar, Parashat Pekudé. Dans la Parashat Pekudé. Shekol shefa v'chayut anishpat l'adam atarton b'sha v'rega shosei ara b'nei Hashem. Que tout l'impact et toute l'énergie, alors on va lire quelques lignes, après on va développer, toute l'énergie qui descend à l'homme qui se trouve en bas, quand il est en train de faire le mal aux yeux de Dieu, c'est-à-dire quand il est en train de faire une avéra, b'maase, que ce soit une avéra qui soit sous forme d'action, au bédibou, ou bien dans la parole, au béirourera vera. Ou même si c'est une avéra qui est faite par la pensée. C'est-à-dire finalement c'est une avéra qui n'est pas forcément une avéra. Qui n'est pas forcément une avéra à proprement parler, mais c'est quelque chose de pas bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akol nishpalo mechalot asitra achava amvoarim sham bezoar akadosh. Bon, Razaken, il amène le Zohar. Le Zohar dit dans la parasha de Koudé, il dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est très important. Et je pense que c'est une clé, ça c'est la clé de la réponse en vérité qui nous permet de tout comprendre. On a donné deux clés jusqu'à maintenant. La première clé qu'on a donnée, c'est qu'on a expliqué justement la différence qu'il y a entre la galoute et le Beth Amikdash. Et là, on a la deuxième clé. C'est très important. C'est quoi la deuxième clé? Il dit la chose suivante. Il dit que, quand, étant donné qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on est en galoute, eh ben, quelque part, on a dit qu'on est comme des goïms. On reçoit notre énergie, entre guillemets, comme des goïms. Alors, dit l'Admor HaZaken, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juif fait une avéra? Un juif, qui le veuille ou qu'il le veuille pas, véhicule une énergie. Vous êtes d'accord? Un juif, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, il véhicule une énergie. C'est-à-dire, même s'il qu'il accepte d'être chemin Torah Mitzvot ou pas, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, il a une neshama en soi. Donc il véhicule une énergie que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'a pas besoin d'aller la chercher de 50 à 100, de toutes les façons, elle descend. C'est une énergie qui descend par sa neshama. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ce juif-là fait une avéra? Quand ce juif fait une avéra, ça veut dire qu'il décide de communiquer avec Akadosh Baruch Hu au travers des forces du mal. C'est bien ce que je suis en train de dire. Lorsque je fais une mitzvah, ça veut dire que je décide de communiquer avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir mon énergie au travers des forces du bien. Lorsque je fais une avera, je décide de communiquer avec Akadosh Baruch Hu au travers des forces du mal. Parce que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu m'enverra de l'énergie. Bon, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Ça change que le juif est le plus grand pourvoyeur des forces du mal qui puissent exister.
Je ne crois pas de nom.
D'accord? Le juif est le plus grand pourvoyeur des forces du mal qui puissent exister. Le Zohar, il dit clairement, il dit que si tous les juifs arrêtaient à un instant donné de faire la averot, les forces du mal, le mal, arrêteraient d'exister instantanément. Et c'est ce qui se passera quand Mashiach viendra. Il n'y aura même pas besoin de faire un effort pour tuer les forces du mal. Puisque les forces du mal sont alimentées obligatoirement par de l'énergie qui vient des juifs. Parce qu'un juif, quand il fait une avéra, il décide, il dit, bon, Akadosh Baruch Hu, tu m'envoies mon énergie par les canaux des forces du mal. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu est obligé d'accepter. C'est ça le concept du libre arbitre. Parce que le juif, il dit, bon, bah tu me sers ici maintenant. Alors aujourd'hui, je ne veux pas dans ce restaurant, je vais aller dans un restaurant non cachère. C'est par là que tu me passes mon énergie. Akadosh Baruch Hu est obligé d'accepter. Il n'a pas le choix, parce que c'est le libre arbitre qu'on a. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? On comprend d'ici que lorsqu'on fait une avera, on fait descendre Akadosh Baruch Hu encore plus en galoute. Là, on comprend que l'impact d'une avera quand on est en galoute est beaucoup plus grave. Et beaucoup plus grave qu'à l'époque du Beit HaMikdash. À l'époque du Beit HaMikdash, une personne qui fait une avera, c'est quoi l'impact qu'il y aura? L'impact qu'il y aura, c'est qu'il coupe. Si tu fais la mitzvah, tu prends, tu fais la avera, puis tu coupes. Mais ça me concerne qu'à moi. Ça ne concerne pas toute l'humanité. D'accord? Aujourd'hui, étant donné que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu est obligé de nous envoyer de l'énergie, que quoi qu'il en soit, il va m'envoyer de l'énergie, mais que ma marge de choix, c'est par quel vecteur, par quel canal l'énergie doit passer, est-ce que par les forces du bien ou par les forces du mal, ça veut dire que lorsque je décide de faire une avera, je suis en train de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans la poubelle. Pas que j'ai coupé les ponts avec Dieu. Non! Je suis en train de prendre Dieu et lui dire, écoute, tu vas me passer mon énergie, mais tu vas la passer ici. Et Dieu, il est obligé d'accepter. Ça veut dire qu'une avéra en galoute, pour revenir à la question de Guy, est beaucoup plus grave sur cet angle-là qu'une avéra à l'époque du Beit HaMikdash. Parce que ça a un impact général. C'est un impact sur tout l'âme Israël. C'est très grave une avéra quand on fait en galoute. Alors, il y a plusieurs aspects de ce que je suis en train de dire. Premièrement, il y a un aspect...
sur les autres aussi.
Quand il y a un impact sur tout le monde, bien sûr. Premièrement, on comprend que l'enjeu d'une avéra quand on est en exil est beaucoup plus grave, bien qu'il n'a pas un impact direct sur notre vie. Mais l'enjeu, on va dire global, est beaucoup plus grave, ça c'est une première chose. Mais deuxièmement, étant donné que je suis le pourvoyeur numéro un des forces du mal, qu'est-ce qu'elles vont faire les forces du mal? Eh bien, elles vont essayer de m'encourager à faire des avérotes. Donc, quand les forces du mal vont devoir reverser en d'autres termes l'énergie qu'elles ont reçue, hein, c'est comme les... Elles reçoivent beaucoup d'argent, elles doivent reverser. À qui elles vont reverser en premier?
Rétro-commission.
À qui elles vont reverser en premier? C'est le Zohar qui dit, hein. C'est pas des blagues. Elles vont reverser en premier à celui qui fait de l'avérance, parce que c'est lui qui les pourvoit principalement. Ils sont actionnaires majoritaires. C'est les actionnaires majoritaires. On leur donne un en premier. Il faut leur donner en premier, c'est eux les patrons. Donc, avec ça, on comprend. Axel Morazaken lui a expliqué. Comment ça se fait?
Mais c'est forcément...
C'est pour ça qu'on argent, il se multiplie, tellement.
Donc ça fait très peur, ça. C'est-à-dire que c'est de l'argent très sale, en vérité.
C'est ça, mais qui se...
Bah oui.
Fructifie, comment on dit. Non.
C'est-à-dire que c'est de l'argent qui vient des forces du mal.
Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, les juifs arrêtaient de faire des avérotes pendant un certain temps, les goïms...
Si tous les juifs arrêtaient de faire des avérotes pendant une fraction de seconde, le mal arrêterait d'exister.
Dommage de pas sortir.
Donc il n'y aurait plus de massacres, il n'y aurait plus de pogroms, il n'y aurait plus tout ça.
Oui, le mal s'arrêterait d'exister, exactement. Et on le voit clairement, ça. On le voit clairement. Est-ce que tu n'as pas remarqué, par exemple, tous les conflits qu'il y a au Moyen-Orient, est-ce que tu n'as pas remarqué que ce que les goïms proposent, c'est ce que nous, on leur propose? Je sais pas si tu essaies d'analyser ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Toujours. Ce que eux ils nous proposent, c'est ce que nous on leur a proposé.
Les juifs devancent.
Bien sûr. Toujours.
Les juifs universels, ceux qui pensent.
Mais toujours.
Ils devancent.
Toujours, ils devancent. C'est comme ça. C'est pas parce que les autres sont bêtes, c'est parce que c'est nous qui devons leur pourvoyer. Une fois qu'on pourvoit, eux ils sont là. Et ils vont servir. Donc bien sûr, les forces du mal vont servir en priorité et de manière très large. Ils vont les gâter, ils vont les bichonner. Beaucoup plus.
Tout est compris.
D'accord.
Donc cette fameuse cohorte qu'on avait vue il y a deux chapitres.
Oui. Eh ben ça change, tu comprends?
Mais elle est toujours là, je veux dire.
elle est toujours là, mais sauf que là, la corne, on ne peut pas la couper. C'est le problème.
On peut pas la couper.
Du temps du Bétamigdash.
Autant du Bétamigdash, finalement, personne qui fait une avéra, on coupe la corne. Bon, ça va. Ça le concerne qu'à lui. À lui, sa famille, c'est tout.
Il y avait du mal ailleurs. D'accord. Il y avait des guerres ailleurs dans
les autres. Bien sûr. Il y avait des gens qui faisaient d'avérotes quand même. On n'a jamais été tous des
équipes. D'ailleurs, il y a eu tellement de fraudes que la corne a descendu.
Non. Ce que je vais expliquer ici. Il paye, oui. Bien sûr qu'il y a toujours un impact. Il y a toujours un impact général. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'impact est beaucoup plus grave. Puisque à l'époque, l'impact avait duré combien de temps? Une personne fait une avéra à 30 ans, par exemple. Bon, jusqu'à 60 ans, il va continuer à faire des bêtises, après c'est fini. On a coupé les fils, c'est-à-dire qu'on a arrêté l'hémorragie, ça y est. Maintenant, après, il y a les dégâts, mais ça y est, on a coupé l'hémorragie. Aujourd'hui, on ne peut plus couper l'hémorragie.
Enfin, tu traduis ça uniquement par... Tu traduis ça
très grave.
Uniquement par NASA, ça explique pas. Ah. Il y a une porte de sortie.
Je ne parle pas...
aux gens qui sont très érudits et autres et qui ont plus la part NASA.
Je ne parle pas que de la part NASA.
Si, on disait ce qui est visible en tous les cas.
Je ne parle pas que de la parnassa. Il n'y a pas que la parnassa.
Ce qui est visible.
Il y a le fait d'être heureux dans la vie, le fait de ne pas avoir des problèmes avec les enfants, avec sa femme, etc. Il peut avoir des gens
ça
qui font d'avérotes.
Soit...
Mais non. Et c'est ce qu'on veut te dire, c'est que ces gens-là, les forces du mal vont les gâter en premier pour dire ne les touchez pas et on ne va pas les toucher. Ces gens qui ne feront jamais tes choix parce que leur vie va très bien. Je sais qu'il y a des fois, vous allez à la déco, on va vous dire oui, celui qui fait d'avérotes, il va pas bien dans sa vie. C'est faux.
Non.
C'est archi faux. Et des gens qui font de la vérote et qui vont très bien dans leur tête. Je peux vous dire. Des gens qui vont très très bien dans leur tête. Après, c'est une chance. C'est qu'Adosh Baruchou, à un certain moment, il fait un appel le phare et il lui dit, écoute, en vérité, tu es pas bien. C'est une chance qu'on a. Et des gens qui n'ont pas cette chance. Et qui, dans leur tête, sont très bien. Sont très équilibrés. Ils ont des valeurs, tout ce que vous voulez. C'est très difficile. C'est une question qui est très dure. C'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken. Non seulement les mitzvot et la vérote sont déconnectés de la réalité, comme ce qu'on a expliqué, mais au contraire. Quelque part, une personne qui fait une avéra, étant donné qu'il décide de demander à Kadosh Baruch Hu de lui faire passer, de lui alimenter son compte en banque, d'accord, au travers des forces du mal. Donc les forces du mal, c'est, pour eux, c'est un actionnaire majoritaire.
Donc l'idée, aujourd'hui, de plusieurs rabbinim qui disent que les juifs, ils ont la mission dans ce monde-ci de s'occuper de tout ce qui concerne le spirituel, et les goyim, ils ont comme mission dans ce monde de s'occuper de tout ce qui est matériel, c'est faux.
Pourquoi? Quel rapport? Il n'y a pas rapport?
Mais si, il y a un rapport, puisqu'en fait, ce que fait un juif sur le plan matériel, même spirituel, ça rejaillit sur l'égoïsme, et donc ça rejaillit sur leur gestion de...
Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est évident, c'est une clé de la chassidoute, ça. Que tout ce qu'un juif fait matériellement, ça a un impact direct sur le spirituel. Il y a Rabbet Artonim, c'est ça la notion. Voilà. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il voulait des gens qui lui servent spirituellement, il a les anges qui le font mieux que nous. Il n'y a pas besoin de nous.
Voilà, donc...
D'accord. Mais bien sûr que nous, il y en a pas, que toutes les mitzvot sont faites dans le matériel, etc. Bien sûr que le matériel a un rôle très très important. C'est évident, ça. D'accord.
Tu l'as pas... Enfin,
je n'ai pas fini encore à répondre à la question. On développe des points.
Là, on ne fait que détailler comment il arrive à récupérer les étincelles divines. On n'a pas dit comment se fait-il que la Torah est en contradiction directe avec ce qu'on a aujourd'hui.
On a expliqué. Non.
C'était ça la question. Hein.
Ça, on a répondu à cette question.
Comment?
Non. On a répondu à cette question en deux paliers. Premier palier, on a expliqué qu'il y a une différence entre la galoute et aujourd'hui. C'est que entre la galoute et le Beth Amikdash, qu'à l'époque du Beth Amikdash, le mitzvot et la verot avaient un impact direct sur notre vie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un premier point. Et là, deuxième point qu'on a rajouté aujourd'hui, c'est que, mis à part ça, qu'il n'y a plus un impact direct, concret et réel sur notre vie, il y a un deuxième facteur qui vient s'ajouter à ça, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui, quand on fait une mitzvah, on alimente les forces du mal, puisque de toutes les façons, Kadosh Baruch Hu continue à nous alimenter jusqu'à 80-100 ans. Et donc, étant donné qu'on alimente les forces du mal, donc il y a un deuxième facteur qui vient s'ajouter, c'est que les forces du mal vont essayer de tout faire pour encourager la personne à continuer à faire de la avérot. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'impact du usage d'une avéra. C'est un deuxième facteur qui n'a rien à voir. C'est les forces du mal qui vont essayer de l'encourager à continuer à faire une avéra. Mais ça n'a rien à voir avec l'impact du mitzvah d'une avéra. Rien à voir. Vous me suivez?
Le seul point que je n'ai pas compris, c'est pourquoi à l'époque du Beit HaMikdash, lorsque quelqu'un faisait une faute, il y avait un bout de la corde qui se... Donc quand il allait trop loin, vous avez la corde cassée, le mec craque.
Ouais.
Et pourquoi maintenant, le fait de faire des avérotes, ça ne coupe plus les...
C'est ce qu'on a expliqué. On a expliqué qu'avant, le rôle du mitzvah d'une avéra, c'était d'aller se servir de l'énergie, de la faire descendre de 50 à 100.
D'accord.
Aujourd'hui, l'énergie, de toute la façon, elle descend. Tu fasses une mitzvah ou tu fasses une avéra.
D'accord.
Mais ma marge, c'est quoi? La marge, c'est quoi aujourd'hui? C'est je demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il va me faire passer l'énergie au travers des forces du mal ou au travers des forces du bien?
En quoi ma corde, elle est cassée?
Elle n'est pas cassée, ma corde.
Parce que
si tu dis casser la corde, ça veut dire qu'on te dit que tu ne reçois plus d'énergie, mais l'énergie continue à la recevoir. Parce que quand on est en galoute, ça a changé. Aujourd'hui, l'impact du mitzvah d'une avéra n'a plus d'impact direct sur notre vie, comme on l'a expliqué la semaine dernière. C'est un impact qui est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus lointain.
D'accord. Dans le Khayyab Karet, vraiment, le Khayyab Karet, il mourrait 60 ans.
Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas que c'est plus vrai. C'est qu'aujourd'hui, on le voit plus. Ça n'a pas forcément d'impact sur la vie matérielle. Un impact, un autre impact, je sais pas, sur le gain d'Éden, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas,
donc c'est un problème, quand même une
il y a quand même une différence, c'est que les forces du mal, c'est côté uniquement de l'âme animale qui nourrissent.
Oui.
Alors que si c'est la mitzvah, c'est pas forcément l'âme animale.
C'est pas forcément l'âme animale, c'est pas divine, bien sûr. Hein.
Ça peut, mais c'est pas que...
Ça veut dire que lorsque je fais une avéra... C'est quoi la marge aujourd'hui qu'on a de faire des mitzvahs d'avérante? C'est pas je décide est-ce que je vais vivre ou je vais pas vivre. Non, c'est pas ça. De toute façon, Dieu va m'envoyer. Ma marge aujourd'hui, c'est de décider par quel canal je veux qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie mon énergie. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, est obligé d'accepter, c'est ce qu'il dit ici. Ve Adam, ou Baal priera. L'homme a un libre arbitre. Im le kabel ashpaato mechalot asitrachara. C'est à lui de décider, est-ce qu'il veut recevoir son énergie en passant par les forces du mal, ou mechalot akdusha, ou bien par les forces du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toutes les façons, l'énergie descend. On ne peut pas couper la corde. On ne peut pas couper le cordon aujourd'hui. La seule marge qu'on a avec l'usage d'une Avera, c'est de dire à Kadosh Baruch par où je veux que tu fasses passer mon énergie. Et c'est sur ça que j'ai ma prira, mon libre arbitre.
Où est-ce qu'il parle des rétrocommissions légales
Attends, on va parler après. Chez Mehem Nishpaot, Kol Marshavot Tevot Kdushot, qui Zé le Oumadze Asa Elohim. Parce qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a fait Zé le Oumadze. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu a fait les forces du bien et les forces du mal, les unes à l'encontre des autres. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal, et vice versa. D'accord? On est d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le bien, toute cette structure qui existe dans le bien, c'est exactement la même structure qui existe dans le mal. C'est-à-dire de la même manière qu'on peut trouver dans le bien, on peut trouver une structure et que les gens vont essayer de réfléchir et de calculer comment arriver, etc. Et qu'il y a une structure, c'est intelligent, c'est beau, c'est joli. Tu peux retrouver exactement la même structure dans les forces du mal. Il y a une structure qui est belle, qui est jolie, qui est intéressante, tout ce que tu veux.
C'est quelqu'un qui veut avoir une belle vie
matérielle. Quelqu'un qui
veut avoir une belle vie matérielle, il a fait les avérants.
Bien sûr, ouais. Tu as raison. D'accord. Encore une fois. Zé Elohumadze Asa Elohim. Dieu a fait les uns à l'encontre de l'autre. Ça veut dire que toute cette belle structure qu'on voit dans la Torah, il y a exactement la même chose de l'autre côté dans les forces du mal. Vous avez des gens qui peuvent avoir des valeurs et tout ce que vous voulez dans les forces du mal, et ça tient debout. Ça tient debout, ne croyez pas que ça tient pas debout, ça tient debout. Ça tient debout.
Tu veux dire il a plus de chance.
Deux.
Il t'a dit s'il veut être riche et tout ça.
Non,
enfin,
je ne pas dire riche, mais avoir une vie de profiter du monde matériel.
C'est vrai ce que tu as dit, tu peux dire, t'auras plus de chances d'avoir des. Je ne veux pas dire.
Pratiquement à tous les coups.
Ouais, plus de chances.
Pratiquement à tous les coups. Même ceux que tu vois qui finissent en prison, mais ils ont mis de l'argent de côté. Ils vont sortir, ils vont faire quelques années de prison.
C'est pas le bonheur d'être en prison. Tu as dit que c'était pas que la part d'un sort.
Oui.
C'est pas le bonheur.
Oh, mais c'est pas le bonheur, mais le gars, il a mis de côté pour toute sa vie. Il a pas peur de faire 3 ans de prison. C'est exactement, ça va te choper.
Regarde les banques, par exemple, c'est pour se faire attraper.
Ah oui.
Il faut pas, c'est légal.
Mais c'est légal, mais c'est pareil. C'est forcément, quand même.
D'accord, donc c'est quoi la prira qu'on a aujourd'hui? Sur quoi? On continue, quelques lignes encore. C'est quoi la prira qu'on a aujourd'hui? C'est de décider par quelle structure je vais passer, puisqu'on a deux structures qui sont équivalentes.
Les aliments du
mal. Ben oui, et on a deux structures qui sont équivalentes. C'est à moi de décider, est-ce que je veux que ma vie soit occupée avec des choses de Kdusha, avec la Torah, avec des mitzvot, toute la journée je pense à des mitzvot, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux pas faire, etc. C'est ça ma structure de ma vie, c'est à ça que je pense toute la journée. Je peux avoir des gens que leur structure de vie toute la journée, c'est de penser quelle avéra je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce que je veux faire. Et il a des structures le gars. Il a une structure, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Il y a une structure qui est logique, il a même des valeurs. Il y a les deux, Zélé ou Mazé, vous ne croyez pas.
D'accord, et qu'est-ce qui fait qu'il va choisir l'un ou l'autre?
C'est son libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Dans les deux, il aura un kiff.
On sait bien que la plupart des juifs, le Shabbat, ils pensent aux mitzvot, et la semaine, ils pensent aux Averot.
Ils pensent aux Averot?
Non,
c'est bien. Pourquoi tu dis qu'ils pensent au matériel?
Oui, c'est ça, je crois ce qu'il voulait dire. On pense que Averot.
On pense pas à Avera toute la semaine quand même.
Quand on parle d'Avera. Quand on parle d'Avera, on parle pas spécialement d'une Avera en particulier, mais la semaine, notre tête elle est pas claire, c'est pas...
On pense pas à Avera, on est
concentré dans...
On cherche pas à faire d'Avera. Ce qui est bien aujourd'hui, je veux dire, ce qui est bien au Hachem aujourd'hui, c'est que les gens...
C'est qu'on cherche pas à faire des mitzvot, finalement.
Oui, j'ai compris. Mais je vais essayer d'expliquer un peu plus ce qu'il dit là de Morazaka, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans la Torah, la structure de sa vie, David.
Mais pas moi, je dis, tu vois, celui qui fait Shabbat, qui vient, c'est comme toi, tu te lèves le matin, tu vas faire une bracha, tu vas différents moments dans ta journée où tu vas forcément penser.
On cherche pas à faire la vérité de la journée. Mais ce que je vais expliquer, c'est un point très très important qu'il va demander à Zaken.
On discute, mais ta voiture, tu oublies sûrement de tenir la porte quand tu sors de chez toi, et c'est pas forcément un avéra, mais
c'est pas dans le monde. Tu le claques la porte sur le.
Ouais, et puis tu veux
dire. Alors c'est une avéra de tenir la porte.
Non, c'est mon
avéra. Je vais passer derrière toi, ça va.
Allez, messieurs. Je vais rajouter un point, je vais expliquer un point.
J'ai juste dit ça pour
dire comme ça.
On n'est pas.
Oui, j'ai compris ta question. Alors, je vais rajouter un point. Pour répondre à ta question, je vais rajouter un point. La même structure qu'on a dans la Torah et Mitzvot. C'est-à-dire, tu vas avoir une personne qui, toute la journée, est occupée avec des Mitzvot. Il va aller travailler, comme tout le monde. Mais toute sa journée, il réfléchit aux Mitzvot. Quelle Mitzvot je vais faire, et comment je vais faire telle Mitzvah, et quel Shachar, avec des Mitzvah, Arvit, et des Brachot, et ça, ici. C'est-à-dire qu'il a une structure. Une structure, toute sa vie, elle tourne autour du Mitzvah. D'un autre côté, tu peux avoir des gens, que toute la structure de leur vie tourne autour de la Averot. Quel film je veux voir, à quoi je veux jouer, quelle femme je veux regarder, etc. C'est une structure, ils ont des valeurs, c'est leurs valeurs. D'accord. Et c'est des valeurs, ça tient debout. Ils ont une vie, ils ont une structure, il est content le soir, il dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, il a les mêmes valeurs que nous. Zéle ou Mazé, Asa Elohim. L'un à l'encontre de l'autre. Alors seulement, c'est quoi notre problème aujourd'hui pour répondre à la question? C'est qu'on est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux. Alors, ben, prochain, tu viens sur de Torah, tu viens au Minyan, etc.
Pas de moi, je parle du peuple en général.
Non, je crois pas. D'accord.
Concrètement, concrètement, dans la pratique, la notion de la
loi, on va rentrer à la maison, je vais dire quel bon livre je vais lire, quel bon cours je vais écouter, quel bon film je vais voir.
Donc, il n'y a pas de logique,
quel travail
il y a quand même un intérêt spirituel. Ça, c'est un intérêt. Il y a un intérêt spirituel. Pas seulement pour le monde futur, même un intérêt spirituel pour se sentir dans le coup. Tu comprends, quelqu'un qui fait d'Averot, après il ouvre son livre de Tfila, il va voir au Khatashem, ça lui dit rien, ça lui prend la tête. D'un autre côté, s'il a fait des mises avant, il dit au Khatashem, ça lui parle. Donc tu vois, il y a... Tu as raison. Tu as raison, effectivement. Parce qu'encore une fois, Zéle ou Mazé, Asa Elohim.
Quand tu parles avec des gens, et mettons, on parle de personnes qui ont choisi le côté gauche, quoi.
Parce que, c'est compliqué, hein, attention. Tu connais beaucoup de gens qui ont choisi le côté gauche?
Je parle de...
Attends, qui sont dans le côté gauche ou qui ont choisi le côté gauche? Parce qu'attention, c'est pas la même chose, hein.
Donc, qui choisissent pour des raisons matérielles...
Oui, mais est-ce qu'ils ont choisi le côté gauche ou bien ils sont nés dans le côté gauche?
Non, on parle de gens qui
choisissent. Bien, c'est le côté gauche, c'est la normalité.
Bon, il y en a pas beaucoup, hein.
Admets-toi. Donc, tu me parles de par exemple...
Quelqu'un qui est religieux, bon, voilà.
Non, mais monsieur Kassavi, par exemple, qui travaille pas le Shabbat.
Ah, tu es enregistré.
Non, qui travaille pas le Shabbat. Et l'autre, qui est le collègue.
D'accord.
Oui. Et son collègue qui travaille le Shabbat parce que il veut
mais il a pas choisi. C'est pas vraiment un choix.
Ici, il a choisi de s'acheter une résidence secondaire.
Non, par définition. Par définition, un choix.
Tu veux la recette?
Par définition. Non, parce que je l'arrête tout de suite parce que je vois où vous en arrivez.
Tu veux la résidence secondaire, le yacht,
La définition d'un choix, c'est quand je maîtrise parfaitement les deux aspects, les deux côtés.
Quand je maîtrise vraiment, d'un côté, je vais gagner,
je maîtrise les bienfaits des deux côtés. Je sais ce que je vais gagner d'un côté, je sais ce que je vais gagner de l'autre. Aujourd'hui, la majorité des gens qui font d'Averot ne savent pas ce qu'ils vont gagner quand ils vont faire une victoire. Donc c'est pas vraiment un choix qu'ils ont fait faire d'Averot.
Donc ce cas n'existe pas alors?
Non, j'ai pas dit que ce cas n'existe pas. Là, je vais essayer d'expliquer comment ça se fait qu'ils gagnent bien leur vie.
Non, mais ma question, c'était pas ça. C'était deux qui gagnent bien leur vie en faisant, en travaillant le Shabbat, par exemple.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que, un, il le fait pour l'argent, mais ça le dérange.
Ouais.
Et qu'un, il kiffe, il dit, bon, Hachem, je gagne bien ma vie le Shabbat. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un, il kiffe de travailler le Shabbat, ça le dérange pas, au contraire, il est content. Et un, ça le dérange. Il travaille le Shabbat, parce que quelque part, entre guillemets, un peu comme les gens qui sont salariés, par exemple. Et à un moment donné, le patron leur dit, écoutez, je vous ai accordé deux jours pour telle fête, maintenant ça suffit pour travailler. Alors le gars, il est salarié, il a une carrière, etc. Enfin bref, donc il a peur que si jamais il pose encore des jours de maladie, etc., de se faire virer, il va rester. Et un qui va dire, non, moi ça me dérange pas, lui, il va, ça le dérange pas de travailler.
La clé de la réponse à ta question, c'est ce qu'il vient de dire ici, c'est le libre arbitre. C'est que si tu as une personne qui, avec son libre arbitre, décide de passer complètement du côté du mal, enfin, il va kiffer d'un côté du mal. Sauf le problème qu'on a, c'est que, au Hachem, dans la majorité des cas, les gens ne veulent pas passer entièrement du côté du mal. Donc ils sont constamment sur les deux. Ils sont là-bas, mais ils ont envie de revenir ici, mais ils ont envie de revenir là-bas.
Ouais.
Comme la Gemara a dit, Rechaim, Chayem, Leim, Charatot. Les Rechaim, leur vie est pleine de regrets. Ils n'arrêtent pas de regretter. C'est-à-dire, ils font une mitzvah, ils regrettent, ils veulent faire une avera. Ils font une avera, ils regrettent, ils veulent faire une mitzvah. Et c'est comme ça, ping-pong. Parce qu'encore une fois, Zéle ou Matzé, il y a des kiffs des deux côtés. Tu comprends? Donc ça, ce qui fait la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a décidé de passer dans le mal et dit, ça y est, moi j'ai tout lâché. Et s'il a décidé, on le laisse.
Mais sur quelle base, sur quelle base il va décider de passer complètement dans le mal? Ça dépend de quoi?
Ça dépend de son libre arbitre.
Oui, mais libre arbitre, ça dépend de quel paramètre?
Tout le monde croit qu'il est dans le droit.
Je pense, je sais pas.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut pas structurer sa vie de deux côtés, c'est-à-dire...
Celui qui structure sa vie des deux côtés, il souffre horriblement.
Oui, mais finalement, on est piégé par le galou, finalement.
Il souffre horriblement parce qu'il est constamment... Il est en contradiction.
Oui, mais il le sera toujours parce qu'il n'y a rien de...
Non, pas du tout.
C'est abstrait.
À un certain moment, quand tu décides de faire tes chouvas, alors tu décides de tirer au maximum vers le bon côté. Donc t'es plus en ping-pong.
T'es un ping-pong quand même.
Ah non,
t'es moins
ping-pong. Non, t'es plus en ping-pong, t'es en côte. T'es plus en ping-pong. Oui, pas la même chose. Le rachat, quand il fait une avéra, il kiffe à fond sa avéra. Mais bon, il a envie quand même de faire des mitzvahs, donc il fait un peu les deux. Celui qui a fait teshuva, je dis pas qu'il fait plus d'avéra, mais ce qui a changé quand il fait teshuva, c'est que maintenant il est en côte. Donc, tu comprends, il est en train de grimper. Donc, ça veut pas dire qu'il redescend pas, mais il est en train de grimper, donc il sait où il va.
Mais la moindre petite avéra, il a retenu.
Oui. Alors, on revient, messieurs. Allez, on va pas s'échapper. Alors, on revient où on en était. Donc, explique l'admor Hazaken. Ve'echalot asitra achara. Mekablim veyonkim chayutam meitlavshut veishtalshelut hashefa viyut sfirot nenoga akulam iprinat tovera iprinat et sadat kanoda leyot echel. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, explique le Zohar, c'est quoi l'arbre de la connaissance? C'est un arbre qui est inclus du bien et du mal. Et ça représente en vérité les forces du mal. Les forces du mal, comment elles vont se servir? Elles vont se servir principalement, comme ce qu'on a expliqué ici, elles vont se servir principalement, d'accord, par les avérotes d'injustes. Ça veut dire comme ça. Ce qu'il veut expliquer ici, c'est qu'on a beaucoup d'actions d'injustes qui peuvent être neutres. Comme l'arbre de la connaissance, qui est bon et qui est mauvais. L'arbre de la connaissance, est-ce que ses fruits étaient mauvais? Non. Ils étaient mauvais parce qu'ils étaient interdits à ce moment-là. Mais s'il avait attendu que Shabbat allait rentrer, les fruits allaient devenir, non seulement que c'est pas interdit, ça allait devenir une bien de les manger. C'est-à-dire qu'on a une notion de neutralité. Et la même manière dans notre vie, on a cette même notion de neutralité. Ça veut dire que on a des choses que tu peux le prendre, tu peux le tirer vers le mal et tu peux le tirer vers le bien. Donc d'où le libre arbitre a décidé qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est-à-dire qu'on a des valeurs dans notre vie, mais ces valeurs, tu peux les tirer soit vers le mal, soit vers le bien. C'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux. D'accord? C'est ça, on le retrouve beaucoup dans notre vie. Il y a des choses qui sont pas gris, il y a des choses qui sont claires, c'est blanc, c'est noir, c'est mitzvah, avera. Mais la majorité de notre vie, c'est des choses qui ne sont pas définies. Qui sont pas claires. C'est pas clair. D'accord? Par exemple, d'accord? Je te donne un exemple. Tu vas sortir avec ta famille. Ça veut dire quoi? C'est mitzvah ou c'est une avera? Ça peut être les deux. Ça peut être, c'est neutre. Tu fais à toi de faire ce que tu veux.
Ça dépend où tu vas.
D'accord? Ça dépend où tu vas. C'est à toi de tirer où tu veux. Et la majorité de ce qu'on fait dans la journée, la majorité même de nos pensées, je vais vous dire, sont des choses qui sont neutres. Qui ne sont pas forcément ni mitzvah ni navera. C'est ce qui explique cette Borazaken. Et lorsque je décide de basculer ça vers la vera, je suis en train de pourvoyer les forces du mal. Je suis le pourvoyeur principal des forces du mal. C'est ce qu'il dit ici. Ine Yaakov Revel Nachalat Oktiv. Alors ça, c'est très grave, votre navera. Je vous dis ce qu'il avait expliqué aujourd'hui. Puisque, on a dit que notre Neshama est comparé à une corde. Il y a une corde qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand il y a une corde qui m'attrape à quelqu'un d'en haut et qu'on te dit que la corde, c'est une corde qui est incassable? C'est ce qu'on vient d'expliquer. À l'époque du Beth Amikdash, la corde, elle est cassable. Aujourd'hui, la corde est incassable. Qu'est-ce qui se passe quand je décide de descendre plus bas et que la corde, de toutes les façons, eh ben, elle est 5 mois. Ben, je tire à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ce qu'on va dire, il y a même des preuves, des versets qui disent clairement, dans lesquels Akadosh Baruch Hu dit, Imon, Ribé, Tsara, etc. Comme Akadosh Baruch Hu dit, vous faites une avéra, je suis avec vous. De la même manière, on dit que quand on est attaché à un tzaddik, quand on fait une avéra, on fait descendre le tzaddik avec nous, le rabbi, enfin, ou le tzaddik avec lequel on est attaché, on le fait descendre avec nous dans l'avéra. D'accord? Parce qu'à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est très grave. C'est pas, il y a rien qui est on fait descendre le Am Israël entier en vérité. On fait descendre Dieu. On fait descendre Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a une corde, et cette corde est incassable. Donc quand j'essaie de faire une avéra, c'est-à-dire que je suis en train de prendre Akadosh Baruch Hu, l'image qu'il avait donnée dans le chapitre 7 du Tanya, c'est comme si on prend la tête du roi et qu'on la fait rentrer dans les toilettes. C'est la même chose. C'est pas que je décide à un certain moment d'être indépendant. Ça aurait pu être à l'époque du Beth Amikdash. Mais maintenant, il n'y a plus d'indépendance, puisque de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, il est toujours attaché à nous. J'ai dit, je vous lâche plus. Donc s'il nous lâche plus, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une avéra, comme il dit ici, Iné Yaakov Revel, vous êtes dans les mots? Iné Yaakov Revel, la ligne commence Yaakov, 6 lignes avant la fin de la page. Yaakov Revel Nachalat Oktiv. C'est écrit que Yaakov est une corde. On a dit dans la paracha Azinu que Yaakov est comparé à une corde qui est attachée à Kadosh Baruch Hu. Al derech machal, comme la corde. Kmo achevel, shirosho echad lemala, verosho acheni lemata. Comme une corde dont une extrémité est en bas, en haut, et une extrémité est en bas. Imimshoch adam verosho acheni. Si un homme va tirer en bas, automatiquement, automatiquement, on va tirer avec lui
l'autre extrémité,
Kamash Efsharloli Machar, jusqu'à combien on peut la tirer. Le problème c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à où on peut le tirer, il n'y a pas de limite. Tu peux le tirer, c'est extensible, tu peux aller où tu veux avec. Ça veut dire qu'un juif, lorsqu'il fait une avéra, il est en train de prendre une énergie qui aurait pu lui servir à faire du bien, et il la prend et décide de faire du mal. C'est pour ça qu'un juif, quand il décide de faire du mal, il le fait mieux que tout le monde. Il fait mieux que tout le monde. Parce que lui, c'est un expert. Pourquoi c'est un expert? Parce qu'il a une énergie que personne n'a. Ça veut dire que lui, il a un fil extensible. Il tire où il veut. S'il amène dans le mal, il explose.
C'est vrai. C'est... D'accord. Dans l'histoire, il y a eu.
Bien sûr.
Alors, regarde, Madoff, d'accord. Il fait longtemps.
Mais c'est clair. Un juif qui décide de faire du mal, quand, va réussir beaucoup plus facilement. Kerviel est juif ou pas?
Non.
Pas encore.
C'est un breton.
Ah, ça va.
C'est tout. Non, je blague.
Il est bête. Il a même pas mis d'argent dans sa poche. C'est l'argent qui part en fumée. Tu vois, ça, c'est pas un juif. Moi, si c'était un juif, on peut mettre un peu d'argent de côté. 5 milliards en fumée, il n'a pas pris un franc dans sa poche, il est en prison. Ça s'appelle un khmar.
C'est un breton. Il y a d'autres qui...
On aurait pu faire l'inverse. Logiquement, à Kadosh Baruch Hu, il aurait dû, pendant que le Beth Amikdash était là, il aurait dû être lié avec nous à jamais. Et avec la cassure qu'il y a eu avec le Rorban Beth Amikdash, là, on aurait pu comprendre qu'il nous aurait dit, maintenant, vous faites des mitzvot, vous êtes attaché à moi, vous faites des averot, vous êtes... C'est tout le contraire.
Il y a deux aspects. Premier aspect, c'est que Kadosh Baruch Hu, un des aspects de la galoute qui rend difficile l'exil, c'est justement de ne pas montrer l'impact de nos averot. Très important pour Kadosh Baruch Hu, parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, tout le monde va faire teshuva. Pour rendre difficile la galoute, il faut qu'on ne voit pas l'impact de nos averot.
On parle que de cette galoute-là?
Galoute en général. C'est un premier point. Un deuxième point aussi, c'est qu'Kadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'en galoute, pas tout le monde va garder Torah Mitzvot, comme on le voit clairement. Donc, imagine-toi, si Kadosh Baruch Hu avait fait en sorte, comme le Beth Amikdash, que notre vie dépend des mitzvot d'averot, t'auras plus personne dans la Israël aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il a fait le système d'une manière qu'aujourd'hui, notre vie ne dépend pas des mitzvot d'averot. Qu'un juif, comme dit le Baal Shem Tov, le fait même qu'un juif existe dans le monde, c'est déjà un but en soi, même s'il fait d'averot toute la journée. C'est déjà quelque chose.
Un but pour qui?
Un but pour Dieu.
Pour lui-même?
Pour
non,
Dieu?
Pour Dieu.
Bien sûr. Il y a déjà un but, c'est déjà quelque chose. Ça a complètement changé. Ça n'a rien à voir avec avant. Avant, tu fais la mitzvah, tu fais la mitzvah, on coupe le fil, ça y est, on coupe le cordon dehors. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais c'est beaucoup plus dangereux. Dans les mots. Donc, comme la corde, que si tu vas tirer la corde, si tu vas tirer l'extrémité d'en bas, automatiquement, tu vas tirer l'autre extrémité jusqu'à où tu peux tirer. Vekar hamamash, veshoresh nishmat ha'adam u'mekora mibrinat hetata anal. La neshama du juif est liée directement au dernier hé, yutke vavke. Le juif est lié au dernier hé. Mais sauf que le juif, il a une corde qui le tire directement au premier yud, à tout en haut. Et c'est à lui de décider, il fait ce qu'il veut. S'il décide d'utiliser ça dans les forces du mal, ben automatiquement il prend tout le shem d'Akadosh Baruch Hu et toute l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, il la prend et il la met dans les forces du mal. Et on ne peut rien lui dire parce qu'il a un libre arbitre. Personne ne peut rien lui dire.
Ça marche pas à chaque fois.
D'accord? Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Regarde autour de toi.
Oui, non mais d'accord, mais je veux dire, tu peux décider de faire de la verrote et puis tu arrives pas.
Ça c'est une chance. C'est une chance. C'est quand Akadosh Baruch Hu secoue la corde de l'autre côté d'en haut. Bah oui, parce que ça va juste de côté. Hein, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le concept d'une corde? C'est que quand tu la secoues en bas, ça secoue en haut. De l'autre côté, quand on la secoue en haut, ça la secoue en bas aussi. Voilà. Donc des fois, on se sent...
T'as toujours un point de rupture à un moment donné. Tu vas d'un côté ou de l'autre?
À un moment, t'as envie de revenir. Mmh. D'où ça vient ça? Parce que Dieu en haut, il a secoué la corde. Allez, hop.
Change de...
Allez, calme. Bien sûr, c'est un mérite. C'est un grand mérite. Il y a des gens qui n'ont pas ce mérite. Faut remercier Kadosh Baruch Hu quand on a ce mérite-là. Et des gens, ils arrivent à chercher un équipement, ils sentent rien. Sans rien du tout, c'est psychologique. Si on arrive à ressentir quelque chose, c'est une chance. Il faut remercier Kadosh Baruch Hu pour ça.
Je veux dire, des fois, t'as envie de faire une avéra et t'arrives pas.
La conscience.
C'est une chance.
Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas.
C'est une chance,
soit ça te gêne.
Soit
ça me dit, non, ça te gêne, tu vois.
Ça veut dire que Baruch HaShem, tellement on est du bon côté, qu'on sent que c'est incompatible.
Voilà.
C'est une chance.
Ou alors, les conditions matérielles ne sont pas rassemblées.
Oui.
Par exemple,
parce que tu n'avais rien
à faire. Je braque
une banque, je sors, je me casse la jambe.
Ouais.
Tu vois, ça arrive aussi.
Oui, c'est pas bien sûr, c'est pas arrivé. C'est une chance.
Quel film ça?
Non, ça arrive à tout le monde, je pense, non?
De braquer des banques.
Non, l'exemple, c'est l'exemple.
De ne pas pouvoir fauter.
De ne pas pouvoir fauter,
oui.
Les circonstances matérielles ne se présentent pas à ce moment-là.
Il va faire une avéra, pile au moment où il va faire l'avéra, il a un coup de fil important, etc. Du coup, il a oublié sa avéra.
C'est ça, ouais.
Ça mérite. Bien sûr, ça mérite.
Et après, tu dis, ah, mais je voulais faire ça, j'ai oublié.
Attends,
c'est trop tard, tu peux plus la faire. Non, c'est vrai, ça arrive.
Alors, dans les mots, on continue. Donc,
Vekar
Hamama,
sois plus concret parce qu'on ne comprend pas trop. La banque et le plâtre, on n'a pas très bien compris. Sois plus concret.
Tu auras compris quand tu seras pas là.
Vekar Hamama, je parais de la même manière. Les chores, nishmat adam ou mekor, amprinat et tata anal, ou mam shirumori d'ashpata à l'idée. Maasav, de toute façon, je sais où ça peut aller. Ou Morid, Amshahashpaata, à l'idée, Maasav, Araim, ou Marchevotev, Ator, Echalot, Estracha, Kavirol. Alors, on y va, monsieur. Shemisham, Mekabel, Marchevotev, ou Maasav. Donc, dans les mots, je traduis. Il dit, c'est exactement la même manière dans la Neshama. Que dans la Neshama, quand je décide de faire une Avera, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire descendre l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, qui descend jusqu'au mon dernier hé. Je prends mon dernier hé, je tire la corde de mon dernier hé, et je la mets dans les forces du mal. D'accord? Et que, écoutez bien ce qu'il dit Shlomo Zalman. Il dit, quand j'ai une pensée mauvaise, j'ai une pensée, je pense quelque chose de pas bien, d'assourd. D'où elle vient cette pensée? D'accord? Elle peut pas venir Maneshama, alors de qui elle vient? D'où elle vient cette mauvaise pensée? D'accord? Alors écoutez bien ce qu'il dit Shlomo Zalman. Cette mauvaise pensée, elle vient du fait que j'ai décidé de basculer mon énergie vers les forces du mal. Et une fois que j'ai décidé de basculer mon énergie vers les forces du mal, c'est les forces du mal qui vont m'amener cette pensée, par exemple. D'accord? J'ai décidé de regarder un film. Pas cachère. D'accord. Une fois que tu as vu le film, la pensée va venir. Qui t'a amené à la pensée? C'est le film. Mais qui t'a mais à cause de quoi? À cause de quoi la pensée est venue? Parce que tu as décidé de regarder le film. Ce qui veut dire tellement
bien compris.
C'est-à-dire comme ça, d'où vient une mauvaise pensée?
Tu vois 2012 par exemple le film.
D'accord. D'où vient, je connais pas les films, mais bon, d'où vient une avéra? D'où vient une mauvaise pensée?
Il y a une scène de...
D'accord? Une personne, il vient, il a une mauvaise pensée qui lui passe dans la tête. D'accord? D'où elle vient cette mauvaise pensée? Cette mauvaise pensée, elle vient en direct des forces du mal. Mais pourquoi elle vient des forces du mal? Parce qu'on a décidé de communiquer avec les forces du mal.
Non, mais des fois, quand tu prends l'exemple du film, là, tu disais, tu peux prendre un film, c'est un film policier, non, tout ce qui est très bien. Standard, et en plein milieu, c'est une scène qui se voilà. C'est
pas cachère,
pas cachère. C'est un standard qui n'est pas cachère.
Déjà, pour un film policier, j'en sais rien, une série, il n'y a pas.
Je pose la question. C'est un standard qui n'est pas cachère.
Bon, on va dire.
Parce que le problème numéro un dans la télé, dans les films, excusez-moi de vous dire, c'est que tu ne maîtrises pas ce que tu vois.
Exactement.
C'est pas ce que tu vas voir.
Tout à fait.
C'est pas ce que tu vas voir.
2012, tu peux y aller.
D'accord.
Il paraît qu'à un moment donné, le gars, il met...
Bon, c'est enregistré, d'accord.
On m'a raconté qu'à un moment donné, il s'énerve avec son...
D'accord. Alors, donc on est en train de dire...
Quoi, bon.
Peu importe.
C'est codé, d'accord.
C'est codé, oui.
C'est codé. Il a vraiment qu'il manque un décodeur pour le comprendre. Ouais,
un décodeur. Non, bon. Alors, messieurs, ça veut dire quoi?
Je connais pas.
Au contraire. Ah ben non, il leur dit que c'est
bien.
Pas
bien, parce que l'idée va te revenir.
Le problème numéro un qu'on a dans ces choses-là, c'est que tu n'as aucune idée de ce qu'on va te montrer. Tu n'es pas maître du tout de ce que tu vas voir.
Ouais.
Tu sais pas ce que tu vas voir. Ça, c'est le problème. Pour moi, c'est le problème numéro un.
D'accord. Alors, ok.
D'accord. Donc, je reviens à ma question. Ce qui est initialement attaqué. Moi, je décide à un certain moment de basculer vers les forces du mal. Parce que d'où elle vient cette mauvaise pensée? C'est possible que comment une mauvaise pensée m'est venue? Elle n'est pas venue de Manéchefèche et Lokit. Elle n'est pas venue de Dieu. De qui elle est venue cette mauvaise pensée? C'est très simple. C'est-à-dire, toi, quand tu décides de basculer vers les forces du mal, tu décides par exemple de rentrer dans leur terrain. Une fois que tu as décidé de basculer vers leur terrain, eux, ils vont t'envoyer des mauvaises pensées. Mais qui? Mais où? Donc, où était ici la marge de mon libre arbitre? La marge de mon libre arbitre, c'est quand j'ai décidé de basculer de l'autre côté.
Les aliments.
Et après, quelque part, comme on expliquera après, quelque part, des fois, on rentre dans un cercle vicieux. On n'arrive plus à s'en sortir. Parce qu'on croit qu'on est maître. Je dis, bon, je vais là-bas, mais dès que je décide, je m'enlève. Tu dis, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que toi, tu décides d'aller là-bas. Mais une fois que tu es là-bas, tu n'es plus maître des pensées qu'on va t'envoyer. Donc après, c'est le Yetzer Hara qui te maîtrise là-bas. C'est très difficile après de ressortir. ce qui dit le Morazaken. Imaginez-vous, c'est-à-dire que quand maintenant je prends Yudke Vavke, Maneshama qui vient du Hé, je prends cette énergie et quelque part je vais la cloisonner dans des forces du mal et je vais rentrer peut-être dans un cercle vicieux qui pourra durer toute une vie. Ça veut dire que j'ai pris la Kadosh Baruch Hu, je l'ai mis dans un cercle vicieux, dans les forces du mal jusqu'à la fin de mes jours. Shamishma. C'est-à-dire que l'enjeu du Navera aujourd'hui est beaucoup plus grave puisqu'on ne peut pas couper le cordon.
Oui, mais donc, la bataille elle est là toute notre vie, c'est ça.
Mais c'est très grave. Quelque part, le fait qu'à l'époque on coupait le cordon, c'est gentil. Donc, c'est bien, coupez le cordon, arrêtez les dégâts. Aujourd'hui, tu vas être par une personne qui continue, oui. On n'arrête pas les dégâts, au contraire, on l'encourage.
C'est le quotidien, c'est-à-dire que tu te promènes c'est dans la rue, là. Finalement, à un oui. moment donné, c'est soit tu as le choix de vite de détourner ton regard, oui, soit de rester deux secondes de plus, c'est ça qu'elle a pensé.
C'est ce que tu veux dans la rue. Dans la rue, il y a des tas de choses dans la rue.
C'est ça, c'est ce qu'on dit. On parlait du film, bon, ça peut être...
Sauf que quand tu es au cinéma, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien voir. Dans la rue, tu peux tourner, tu peux regarder.
Dans la rue, c'est pareil. Dans la rue.
Excuse-moi, tu peux aussi éteindre la télé ou tu peux passer à la scène.
Oui, mais éteindre la télé, le problème, c'est que la télé.
Éteindre, tu peux pas. C'est ça qu'on expliquait. L'allumer.
La télé, comment ?
Oui, la télé, comment ? Excuse-moi, moi, à mon avis, d'accord ? Quand tu as une scène, même si tu vas l'éteindre, même si tu vas pas regarder, tu vas continuer à la regarder dans ton imagination. Quelque part, c'est même encore pire.
Ouais, elle va revenir.
Ah bah oui, c'est sûr qu'elle va revenir. Pour moi, enfin, à mon avis, chacun à son niveau, hein.
C'est évident. Hein. Dit.
Là, c'est ce qu'il est en train de dire. D'accord.
Tu te couches à mon avis, en train de dormir, t'as une pensée qui
se passe. De toute façon, tu marches dans la rue. Ça te
décide.
Quand on marche dans la rue, c'est à moi de décider. Tu comprends? Si je vais être dans la voiture et je décide que je vais mettre un chiour de Torah, je vais écouter un chiour de Torah, je vais essayer d'avoir l'esprit dans la Kdusha. Automatiquement, je vais trouver que des opportunités de Kdusha. Je vais retrouver des gens, je vais voir des gens, etc. Je vais voir que du bien. Tu veux chercher le mal, tu vas le trouver.
Donc ça a des impacts.
D'accord. Bien sûr, ça a des impacts.
C'est clair.
C'est ce qu'on est en train de dire ici.
Ben oui,
c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est qu'un homme, c'est que finalement la marge du libre arbitre ici, et que c'est quoi ? C'est je décide dans quel camp je me mets. Mais après, une fois que j'ai décidé un camp,
je suis entraîné.
Après, je suis entraîné.
Je suis plus comme.
Ce qu'il dit ici.
Donc, ça a des impacts.
D'accord. Et c'est pour ça. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, quand une personne décide de faire une avéra, il décide de passer dans le camp des avérotes. Donc, on dit, ah, tu fais un avéra, allez, on va t'amener les pensées, etc. On lui avait les pensées. Après, il essaie de se retirer, mais il n'arrive plus. Parce qu'il est déjà pris.
Vitale, c'est
génial. Ce que... Il a amené les forces. D'accord.
Il est dans un autre camp, c'est fini, il est ailleurs, il est dehors.
Il a commencé à amener les forces du mal.
Alors, au mipne, chez où, à Mamshir Lahem. Donc, c'est ce qu'il dit à Morazakan, il dit, étant donné que cette personne-là, où, à Mamshir Lahem, behashpa, étant donné que ce juif-là, qui est nous en vérité, finit par devenir le pourvoyeur principal des forces du mal. La reine, c'est pour ça, ou Notel Chelek Beroche. C'est pour ça qu'il est servi en premier. Védal. Védal, ça veut dire, et c'est suffisant pour celui qui comprend. Eh oui. Ça veut dire qu'après, c'est un cercle vicieux, on s'en sort plus. Alors, ça c'est ce qu'il dit Admor Hazaken. Bon, néanmoins, savoir que le Rabbi Rachab, il explique dans un des commentaires sur le Tania, il dit que ce principe-là qu'on a dit que le rachat, que les forces du mal alimentent le rachat, et qu'ils encouragent le rachat à faire des avérotes, c'est un principe qui est vrai, mais c'est un principe qui n'est pas vrai ad vitam aeternam. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, quelque part, un jour, ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'un jour, cette personne-là, par exemple, il sera plus heureux de sa fortune, ou il voudra d'autres choses, ou il cherchera des problèmes, ou il sera malheureux, etc. D'accord ? Ça arrivera. Mais il aura une bonne partie de sa vie dans laquelle il sera tranquille.
Dans les télims, c'est marqué, hein. Dans ses vieux jours, à un moment donné, il va se rendre compte de ses erreurs.
Donc, avec ça, on a répondu à notre question. Donc ça, c'est le deuxième paramètre qu'on a rajouté aujourd'hui. Le paramètre, justement, de quelle est la marge du libre-arbitre aujourd'hui. La marge du libre-arbitre, c'est de décider dans quel camp, à quel camp je vais appartenir. Ce qu'on a expliqué ici. C'est ça le libre-arbitre. Est-ce que je vais appartenir au camp du bien ou au camp du mal? Et si je décide d'appartenir au camp du mal, vas-y, le mal, il va m'envoyer des pensées, tout ce que tu veux, il va t'éclater, il va t'envoyer des rêves, tout ce que tu veux. D'accord? Après, c'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux. Et moi, j'arrive pas à en sortir. Et le Yetzer Hara va continuer à m'alimenter parce qu'il est en train de récupérer. Il récupère une mise énorme. Donc il dit, vas-y, je t'envoie. Je te fais kiffer encore plus qu'un goy. Allez. C'est pour ça qu'un juif, écoutez bien, un juif dans une avéra, il va kiffer encore plus qu'un goy qui fait la même avéra. Hein, je continue toujours dans le même ordre d'idée. Il va kiffer encore plus. Le Yetzer Hara, il va tout faire en sorte pour que le juif, lorsqu'il fait une avéra, même si c'est une petite avéra, il va s'arranger pour qu'il va faire un kiff énorme. Je pense que c'est une petite avéra, le gars il va se moquer, il va dire mais attends, qu'est-ce que tu kiffes, t'as rien fait là, t'as rien du tout ça. D'accord ? Non, mais justement, pourquoi le Yitzhara, pourquoi le Satan le Yitzhara va s'arranger pour qu'il kiffe beaucoup ? Parce qu'il a envie de lui donner le goût et il a envie de l'attraper, de le verrouiller, de dire ah, ça tu vas recommencer. D'accord ?
Non, c'est sûr. Ouais, c'est ça.
Oui, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a ce paramètre aussi que le juif, lorsqu'il fait une avéra, il va avoir un plaisir beaucoup plus fort que le goy. Parce que c'est le Satan, c'est le Yitzhara qui donne un plaisir énorme. Pourquoi ? Savoir continuer parce que c'est interdit, mais surtout pour l'attraper et pour lui donner le goût.
Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, moi je mange du cochon, je mange du porc.
Ça me fait
dit,
rien.
Il m'a dit non.
Ouais.
Il m'a dit mais...
Ah, un juif
je, oui, un juif. Il m'a dit mais le Shabbat, c'est encore meilleur.
J'ai mis, je
dis ça. J'ai dit, je me suis barré parce que j'avais fait la Guimara avant. Il y a marqué que si t'es pas un sadique parfait, lorsque tu es face à un rachat qui est
triomphe,
on a vu le Shabbat, pourquoi il triomphe. C'est triomphe, ça met gagne énormément d'argent.
Mais certainement qu'il a raison, hein. Certainement que le Shabbat, qui fait son jambon, c'est très possible.
Et dans la pub, c'est un des meilleurs, tu vois. C'est un mec qui gagne très très bien sa vie, tu vois. Mais je l'ai vu comment il m'a dit ça. Il m'a dit, mais le Shabbat, c'est encore meilleur. Mais vraiment, j'ai senti
c'est
que...
C'est pour toi, c'est t'as vu l'éclat dans ses yeux, l'éclat dans ses yeux.
Je veux dire que j'ai vu ce qu'il mangeait.
C'est pas ça, là. Il a choisi son camp.
Oui, mais ça marche bien.
Ah oui. Il a choisi son camp. Tu comprends, nous, notre problème, c'est qu'on choisit pas notre camp. Même quand on fait une avéra, bon, on dit pas...
Tu fais pas beaucoup des comme ça, quand même.
Ouais, moi,
je vais pas dire son nom, parce que...
Tu fréquentes notre propre milieu,
dans le métier, il est connu.
Ouais, on y va.
Au top 50, il est dans la chambre.
Donc, avec ça, on comprend. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ces gens-là, qui font des avérotes, non seulement qu'ils meurent pas à 50 ou 60 ans, mais ils vivent bien. Voilà, on a compris pourquoi. Non seulement que aujourd'hui les mitzvot avérotes n'ont pas d'impact direct sur notre vie, on expliquait qu'il n'y a plus le concept de chayav keret qu'on va voir parce qu'on coupe, on peut plus couper le fil. La marge, les mitzvot et l'avérot ont un impact qui est beaucoup plus abstrait, mais plus que ça. Il y a un deuxième facteur qu'on a expliqué qui est que une personne qui a choisi le camp des avérotes, cette personne-là, le Yitzhara, il va le prendre, il va le verrouiller, il va l'attraper, il va le faire kiffer, il va le bichonner, il va s'assurer qu'il reste un maximum de temps chez lui. Et après le jour où il se réveille, c'est trop tard. Il peut rien faire, il arrive plus. Parce que la marge du libre-arbitre, c'est quoi le libre-arbitre ? Si je décide d'avoir une mauvaise pensée, d'où vient cette mauvaise pensée ? Elle vient des forces du mal. La marge du libre-arbitre, c'est de décider d'appartenir aux forces du mal. Vezeu shamru razal. Avec ça, on comprend ce que les rachamim ont dit. Dans Pirkei Avot, ils ont dit « En veyadenu lo mishalvat areshaim vechule ». Qu'est-ce qu'on dit les rachamim dans la Mishnah, Pirkei Avot ? Ils ont dit « Aujourd'hui, nous n'avons plus l'eau mishalvat areshaim, ni la tranquillité des reshaim. » Ça veut dire quoi, beyadenu ? Beyadenu dafka. Quel omar ça veut dire ? Bizman agalut achar achorban. Ça veut dire comme ça. Quand on dit qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est la tranquillité des reshaim, c'est quoi la tranquillité des reshaim ? La tranquillité des reshaim, c'est-à-dire qu'à l'époque, un rachat, une personne qui décidait d'être rachat, qui décidait de couper le cordon, ça y est, il a coupé le cordon, c'est fini. Il n'y a plus de remords, c'est plus qu'il est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui décide d'être un rachat, de couper le cordon, il coupe le cordon.
Il n'y a pas de choses.
Aujourd'hui, une personne ne peut pas couper le cordon. Donc, quelque part, il ne sera jamais tranquille, parce que même quand il décide, c'est ce que Gemara Brachot a dit aussi, même lorsqu'il décide d'aller dans le camp des forces du mal et qu'on va le verrouiller, mais il a toujours une échelle, puisque le fil, on a expliqué, il est toujours attaché. Donc, il est secoué des fois, donc il essaye de sortir, mais il n'arrive pas. À la limite, pour lui, ça aurait été plus simple qu'on lui coupe le cordon. Il dit, mais laissez-moi tranquille, tu sais, je vais vous couper le cordon. On ne lui coupe pas le cordon. Donc, il sera jamais tranquille.
Je comprends pas, dans le premier cas, il n'avait pas une neshama, chelek elokit mamash.
Celui qui a décidé, dans le premier cas à l'époque, il était Migdash, celui qui avait décidé de faire une averse sur lequel il karet, il coupe le cordon.
Mais sa neshama, qu'est-ce qu'elle fait?
Sa neshama, elle retourne chez Akadosh Baruch Hu, et tant que cette personne-là ne meurt pas, enfin, il reste en suspens, mais il vit.
Il a bien pris cette neshama qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, il a mise dans les toilettes.
Non, parce qu'on avait expliqué que cette personne-là, jusqu'à 50-60 ans, il va vivre des résidus de sa neshama qui sont attachés encore à lui. Mais sa neshama, elle remonte à Akadosh Baruch
Hu. On comprend maintenant le principe de la teshuva.
C'est très possible même que sa neshama redescende.
Il a tellement de vitalité, finalement, dans le mal,
qu'il redescend Gilgul, elle repart, on la remet dans le circuit de distribution le lendemain.
C'est pour ça peut-être qu'il t'a dépassé dans la...
D'accord. Continue la demande à Zakan.
La vitalité t'a dépassé.
Vezoï
plus fort dans
comme ça on finit le pérec.
Mais justement, c'était quelqu'un qui
était
religieux avant.
Il était peut-être plus fort que toi dans la vitalité du match.
Il a changé de camp.
C'est quelqu'un qui était religieux.
Il a changé de camp. C'est ça, c'est clair.
Et il m'a dit, moi j'étudie le Tania.
Moi je te dis.
Moi j'étudie le Tania et j'ai compris. Et j'ai bien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu comprends?
Certainement.
Il m'a dit, j'ai compris quelque chose, je peux pas t'en parler. Il m'a dit, parce que c'est. Mais tout ça, ça sert à rien. Voilà.
Il s'est arrêté ici.
J'ai
en
bien
fait.
Compris.
Il s'est arrêté
ça, il a pas de temps. Non, physiquement, mais... matériellement, il a raison, matériellement, ça sert à rien. Matériellement, il voulait dire.
Mais tu peux faire des mises, pas des mises, ça sert à rien.
Il s'est arrêté là, en fait. Ça,
matériellement.
Et maintenant, je mange. Alors, mais vous. Non.
Ça l'a marqué, ça l'a marqué. Et ouais, rappelle, vous la rappelez,
vous mangez du porc. Vous mangez du porc? Oui, je mange du porc. Et j'en mange surtout le Shabbat, mais. très sérieux.
Bon, mais quelque part, il est encore attaché au judaïsme. Parce que si pour lui, le Shabbat, il a besoin d'exprimer ça, ça veut dire que. C'est-à-dire que le Shabbat, on lui bouge un peu la corde, et il a besoin de dire non.
C'est la manière de sanctifier le Shabbat, peut-être.
Ils sont tous attachés, quoi qu'il arrive.
Oui! Mais ça, c'est ça le problème.
Ils sont tous attachés.
C'est que comme il est toujours attaché.
Même s'il se voile la face.
Il est toujours attaché. Donc, il est toujours attaché. On le secoue un peu d'en haut, mais lui, tellement il est verrouillé.
Oui,
on est tous comme ça.
Il peut pas revenir en arrière.
Ouais, est-ce que c'est bien ou
c'est... Oui, tout le monde peut revenir en arrière.
Bah, c'est bien et c'est pas bien.
Pour moi, c'est mieux avant.
C'est un double tranchant.
Parce qu'avant de le faire mourir, avant c'était une tova. C'était une capara, donc c'était mieux.
D'un autre côté, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire teshuva. C'est que s'il veut, étant donné que.
Bah oui. Ce qui est mieux.
Après, bah, t'imagines, on coupe pas le cordon, c'est
une grande... la force de la race, c'est ce qu'il dit ici.
C'est que d'un côté, on peut faire teshuva, mais d'un autre côté, ça veut dire, comme il dit ici, Vezoï, on lit dans les mots, je vais répondre à ta question, Vezoï prinat galut ashrina. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire descendre. Eh ben oui, c'est ça la galut ashrina.
Certainement, c'est plus difficile de faire teshuva.
Seconde, pour répondre à sa question. C'est ça la galut de la shrina. C'est-à-dire, quand tu prends de l'énergie divine, tu décides de prendre cette énergie et de l'envoyer dans un camp d'Averot, c'est une galut énorme pour la shrina. Kaviachol, c'est quoi la galoute? Les Hpia, les Chalot, Asitra Rara, cher San Anachoid Barer, Dieu ne supporte pas les forces du mal, et quelque part, on va forcer Dieu, avec notre libre arbitre, Dieu est obligé d'accepter, on va forcer Dieu à alimenter les forces du mal. C'est la plus grande galoute qui peut exister, c'est-à-dire que la galoute n'est pas que pour nous, la galoute est pour la Shrina. La Shrina, elle souffre autant que nous. Parce que quand on fait une Avera, on va forcer la Shrina à alimenter les forces du mal, elle souffre autant que nous, c'est ce que Dieu dit, Imon Achibetzara. Ukshe Adam, Oset Shuva Nechona. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, étant donné qu'il n'en a jamais coupé le cordon? Donc lorsque la personne fait une bonne teshuva, on expliquera après ce que c'est une bonne teshuva. Azaï, à ce moment-là, Mesalek mehem ahashpa shemshir ma'asav marshevotav. Lorsque la personne va faire une bonne teshuva, hein, étant donné qu'il n'a jamais lâché le cordon, qu'est-ce qui va se passer? Il aura la capacité, comme ça on expliquera avec Radachem les semaines suivantes, il aura la capacité de récupérer l'énergie qu'il a envoyée aux forces du mal. Eh ben oui. Pourquoi? Kibit Shuvato, Machazir, Ashpat, Ashrina, Limkoma. Parce que encore une fois, c'est quoi la Tshuva? C'est que je dis à la Shrina, écoute, je t'ai pris, je t'ai fait descendre là-bas. C'est quoi la Tshuva? C'est maintenant l'énergie que j'ai envoyée, je la prends et je la ramène. Je monte à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Je monte à Kadosh Baruch Hu, que je suis capable de reprendre cette énergie et la transformer en bien.
C'est peut-être son calcul, hein.
D'accord. Comme explique le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit que lorsqu'une personne utilise ses Averot en tant que tremplin pour faire tes Tshuva, ça veut dire que quelque part, il a trouvé du bien dans l'Averot. Ça veut pas dire faire d'Averot. Ça veut dire que c'est ce qu'on a expliqué ici.
Le fort,
mais c'est beaucoup plus facile à monter.
Parce que cette personne-là, lorsqu'il a fait d'Averot, il a fait tellement d'Averot que lorsqu'il fera une teshuva, il fera une teshuva extraordinaire. Parce que
le cochon le transformer.
Ça sera plus dur pour qu'il y arrive.
Ça, c'est comme ça qu'on va s'y revenir.
Voilà. Kipa Noga, je comprends.
Oui, tu as raison.
Il a pas fait la bracha en mangeant un truc. Mais le porc.
Non, le porc aussi.
Il va convertir le porc.
Il va pas convertir le porc. Mais il va convertir.
Qui l'a mangé? Il va le convertir.
Oui, l'énergie, ce qu'il a mangé.
L'énergie, ce qu'il a mangé.
C'est pour ça qu'on dit que le Baal Teshuva est plus fort que le tzaddik, parce que le tzaddik ne peut pas toucher aux forces du mal.
Donc finalement, quelqu'un, si on suit ce raccourci, si t'as un plan dans l'Averot, c'est beaucoup plus rapide de monter vite en énergie dans les Averot que dans le bien.
Non, parce que celui qui décide de rentrer dans le camp d'Averot.
Mais en énergie, c'est facile.
Il est verrouillé,
c'est difficile de faire.
Très difficile.
De refaire tes chouvas.
Très difficile.
Mais en énergie, tu peux vite monter, quoi.
La marge de libre arbitre, c'est quoi? C'est de décider son camp.
Par exemple, quelqu'un qui gagne facilement sa vie, d'accord? Et qui va dépenser 2000 euros par semaine pour au jour. Au tiercé, d'accord? Je parle pas de gens qu'on connaît, hein. Parce que 2000 euros par semaine, c'est beaucoup. Mais c'est l'un des cas que j'ai vu. Eh ben, le jour où il va faire teshuva, il est quand même drogué il pense qu'à ça.
C'est clair.
Tu vois? Donc, le fait de faire teshuva, c'est de supprimer, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer ou qui arrête la cocaïne. C'est vachement dur de faire, d'être sevré.
Alors, on va venir finir dans les mots. D'accord? Vezeu, tashuv, he. On a dit, c'est quoi teshuva? c'est que le hé retourne. Ça veut dire quoi? Tachouv hé tata mifrinat galout. Ça veut dire ramener le hé de l'exil dans lequel on l'a amené. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on fait une, quand on fait de la averot, on est en train d'amener la galout de la shrina. Ça, c'est une notion qu'on va expliquer longuement dans les chapitres suivants. Ou comme moi, shekatuv, comme c'est écrit, veshav hachem elokecha et jvutecha, que l'omar im jvutecha, kuma marazal, veheshiv lo nehemar. Qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque on fait teshuva, c'est pas écrit, Dieu dit, c'est pas écrit que Dieu dit dans ce cas-là, je te ramènerai. Dieu dit dans ce cas-là, je reviendrai. Pourquoi je reviendrai? Parce que ça veut dire quelque part, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est parti. Quand on fait une avera, on a amené Akadosh Baruch Hu avec nous dans les forces du mal. Et c'est ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu, il dit que lorsque vous faites teshuva, c'est pas que vous qui faites teshuva. C'est le monde entier qui fait teshuva, c'est les forces du bien qui font teshuva. Ça veut dire que l'enjeu qu'on a quand on fait teshuva, c'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi, ce que je vais vivre ou ce que je vais pas vivre, c'est le monde entier qui va en bénéficier. Donc avec ça, on a bien, Baruch Hashem, répondu à la question, je pense. Comment ça se fait que les gens, comment ça se fait qu'on a des gens qui meurent pas et qu'au contraire, ils vivent bien? Deux choses à expliquer. Premier facteur, on a expliqué le fait que quand on est en galoute, on ne voit plus l'impact direct de nos avérotes, ce qu'on a expliqué longuement la semaine dernière. Deuxième facteur qu'on a expliqué aujourd'hui, le fait que c'est quoi notre marge de libre arbitre, c'est de décider dans, à quel camp on va appartenir. Et si une personne a décidé d'appartenir pour X temps au camp des forces du mal, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Étant donné qu'il a décidé d'alimenter les forces du mal, qu'est-ce qu'ils vont lui faire les forces du mal? Eux aussi, ils vont le bichonner. Et c'est ce qui explique le fait que ils vont le bichonner, ils vont lui donner le goût, et plus il avancera, et plus on va lui donner le goût, et il aura du mal, un mal fou à sortir.
C'est le coup, c'est le gars.
D'accord?
Là.
Ben oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'on est en train de prendre Akadosh Baruch Hu, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, je dis, Dieu, l'énergie, tu vois, la corde. Attends, la corde, toi, je l'amène dans les forces du mal. C'est horrible. On prend la shrina, on est en train d'amener dans la galoute. C'est horrible. C'est ça, teshuva, hé. Ramener le hé. C'est-à-dire qu'en galoute, la teshuva a pris carrément une autre forme. C'est quoi la teshuva aujourd'hui? C'est prendre le hé de la Kadosh Baruch Hu, la neshama, l'énergie de la neshama qui a été dirigée vers les forces du mal, et la ramener vers les forces
et
du
Dieu
mal.
Et Dieu, il revient avec.
Bien sûr.
C'est ça, c'est que
bah oui. D'accord. Bon. Mais attention, on va expliquer après, dans le chapitre suivant, que justement, il y a une notion de le hé d'en haut, le hé d'en bas, et comment on fait teshuva, parce que sur le papier, ça a l'air très facile. Mm-hmm. Mais comment on fait ça dans le temps? Au moins, ce qu'on a pu comprendre, c'est l'impact d'une avéra aujourd'hui.
Quand on dit Dieu, on pense à quoi?
Là, on comprend bien. D'accord?
On veut dire la shrina.
Ça veut dire comme ça. Dans le chapitre 5, on a expliqué le juif, la structure du juif. On a expliqué comment le juif, il a été créé, on a dit, non pas par la parole, mais par l'inspiration. Là, on a expliqué l'impact qu'il va avoir dans une idée d'une avéra. C'est qu'aujourd'hui, quand on est en galoute, l'impact est très grave. Parce que l'impact, une mitzvah d'une avéra, ça veut dire je décide à quel camp je vais appartenir et où je vais tirer l'énergie divine. C'est extraordinaire, c'est énorme.
T'as compris, David?
Ça veut dire qu'on a un impact sur, non seulement sur le plan général, mais sur Akadosh Baruch Hu, Kaviachol.
Oui, mais il faut que ça
arrête. D'accord? Alors, on développera avec Tachin plus longuement dans les semaines suivantes, sur le papier, que ça c'est sur le papier, comment, justement, Teshuvaha, ramener le Hé, etc. On développera plus longuement, mais au moins, en tout cas, on a répondu.
Non, pour quel rapport, Tachouv, parce que Tachouv, V-A, ou...
Non, Tachouv, Hé, le Hé, il retourne.
Ça fait Kamatré. On est d'accord par rapport au mot Teshuva.
Ben, t'échoues.
T'échoues.
Je rajoute le hé à la fin.
Hé à la fin.
Il revient, il retourne. T'échoues.
Hé. Oui. Il y a un hé à la fin de tout.
Non, il y a un vav.
Non. C'est un bête, un hé.
Le bête, alors.
T'échoues. Hé.
Si tu mets le hé à la fin.
C'est le Zohar qui dit ça.
D'accord, mais le bête qui est chanté, là, le bête.
Tu regardes. Quelque part, il n'y a pas d'autre issue, même pour celui qui fait des avérotes.
Et après, tu mets le hé à côté. Et quand tu dis.
Ben non. Non. Parce qu'une personne peut rester à faire des avérotes jusqu'à la fin de ses jours.
D'accord. D'accord, mais il reviendra. Quelque part, ça peut pas rester.
Oui, tu veux dire, on n'a jamais coupé les ponts.
Oui, il n'y aura pas d'autre issue que de revenir. Si c'est pas lui qui reviendra, ça sera une...
Ses enfants, ses petits-enfants, oui. Parce que le cordon, la beauté quand on est en galoute, c'est que le cordon ne peut jamais être coupé.
Oui, mais par exemple, tu prends la Gemara, par exemple, on te dit que celui, par exemple, qui vient pas à la prière, qui vient pas à la Beta Knesset,
Akadosh Baruch Hu demande.
Akadosh Baruch Hu, il extirpe, et non seulement il provoque la galoute, mais Hachem, il extirpe de la tribu de Yehuda, du peuple de Yehuda.
Oui, alors
que ça veut dire qu'il extirpe du peuple de Yehuda?
Encore une fois, ça veut dire que, quand tu dis qu'il extirpe du peuple de Yehuda, ça veut dire qu'il enlève du côté de la Kdusha. C'est-à-dire que cette personne-là sera plus attirée vers les forces du mal. Il y a deux canaux, il y a deux vecteurs.
Il a dit déraciner, là.
Mais oui, c'est ça déraciner. C'est qu'on te coupe du bien. Et donc du coup, tu te retrouves à être intéressé vers le mal, et tu vas vers le camp du mal, et après t'intéresser, après tu prends, et tu comprends pas comment c'est passé.
Et là, t'as pas compris pourquoi que...
D'accord,
on parle pas de ça.
Elle a pris ses potes roses, hein? Bon, allez, on s'arrête là.
Bien dommage, il n'y a pas encore une personne.
Peut-être que Jean-Yves a une petite passe ou le chapeau?
Il a été ça, alors que Ravi Sef, il n'est pas ailleurs à...
En plus, Ravi Sef, il était non-voyant. Donc, s'il est non-voyant, normalement, hein, ceux qui sont non-voyants,